إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله en cette soirée du samedi 15 رمضان 1430 بإذن الله عز وجل. Ce qui correspond avec le 6 septembre 2009 بإذن الله تعالى. On va lire quelques fatwas du comité permanent, de la fatwa de l'Arabie Saoudite. C'est dans le tome numéro 13. Dans le tome numéro 13. Ils ont dit, bi'idhnillahi ta'ala. Ils ont dit, bi'idhnillahi ta'ala. Iqtina'u tuyuri wal hayawanati muhannatati haram. Page 36. Je répète, iqtina'u tuyuri wal hayawanati muhannatati haram. C'est-à-dire que il est interdit par exemple, d'acheter ou bien d'avoir à la maison ou bien d'acheter par exemple, des oiseaux, hein, ou bien des animaux en général qui sont momifiés. Momifiés. Quand il a dit les oiseaux, je veux dire momifiés, pas des oiseaux, il y en a qui sont vivants. On peut acheter un oiseau vivant et l'offrir par exemple à Sana, lui dire voilà un cadeau. Mais s'il est mort, on ne peut pas. Hein, pourquoi? Parce que certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'ouvrent. Ils ouvrent, par exemple, cet oiseau ou bien cet animal. Ils le remplissent avec je ne sais pas quoi, ce qu'on appelle, ils le momifient. Ils le momifient. Ensuite, Muslim, tu dis tafadhal. Pourquoi? Est-ce que vous m'entendez pas ou quoi? Muslim, tu viens de dire tafadhal. Est-ce que tu veux dire que vous m'entendez pas? Je prends le micro ou bien c'est quoi? C'est quoi? Alhamdulillah. Donc, il y a certains qui, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un animal, par exemple une gazelle. Une gazelle, hein, qui est morte, ils l'ouvrent, ils la remplissent de paille, par exemple, de paille ou n'importe quoi, un mohim, pour qu'elle reste comme ça, comme une momie. Et ils la vendent. Or, vendre des choses pareilles est interdit. Non. C'est pour ça que vous trouvez, par exemple, chez certains, ils mettent comme des lézards. Un grand lézard comme ça, plein de paille à l'intérieur, ils le mettent comme parure, ils l'accrochent sur des murs. Je voyais moi ça chez des gens, hein, quand j'étais jeune, je voyais ça chez certains gens au bled. Donc tout ça, c'est haram bi'idhnillahi ta'ala. Page 36. Ensuite, ils ont dit, لا يجوز بيع القطط والقردات والكلاب. Page 38. Le comité a dit, il est interdit de vendre les chats. Maintenant, on ne parle pas de momifiés. On parle de chats et animaux vivants. Il est interdit de vendre des chats, des singes ou des chiens. Page 38. En parenthèse, j'ai marqué pourquoi ils ont dit parce que ça rentre dans et dépenser son argent dans des futilités. Et l'islam nous interdit de dépenser l'argent dans des choses qui sont futiles, qui ne ramènent aucun bien. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire que, en ce qui concerne les chiens, certains savants, comme Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, a permis, parce qu'il a authentifié un hadith, où il est dit, sauf si c'est un chien de chasse ou un chien de garde. Ça, c'est d'après le hadith de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Mais si ce hadith, si on supposait que ce hadith n'était pas authentique, et qu'une personne avait besoin d'un chien pour garder la maison ou bien pour garder son troupeau, et que ça devenait une nécessité. Dans ce cas, elle essaye d'avoir un chien d'une façon, yani, sans payer. Elle essaye qu'on lui offre un chien. Mais si elle ne peut pas, alors il ne lui reste que la solution de l'acheter. Et dans ce cas, ce sera celui qui vend, qui va vendre ce chien, qui aura les péchés, et non pas celui qui va l'acheter, car il est, comme je viens de dire, dans une nécessité. Naam. Et en ce qui concerne les chats, maintenant je me rappelle qu'il y a un hadith authentique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, où il est dit qu'il était interdit de vendre les chats. Seulement, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a employé un mot, c'est naour, comme ça en arabe. Et c'est naour, certains ont dit que c'est pas, yani, spécialement le chat de la maison. Ils ont dit, ils parlaient du chat, yani, qui est dangereux, comme, yani, le tigre, etc., le grand chat. C'est lui qui peut tuer les personnes. Naam. C'est pour ça que Cheikh Ibn Othaymeen Rahmoullah a dit, dans une de ses fatwas, que le chat, naam, si vraiment on avait besoin de lui, par exemple pour qu'il tue les souris, ou puis pour qu'il détruise, yani, certaines choses qu'on a à la maison, ça, dans ce cas, il a dit, c'est permis. Sinon, non. Sinon, non. Donc, pour ceux qui achètent comme ça des chats, les chats siamois, il achète ainsi un chat siamois juste pour faire plaisir à qui? À ses enfants. À celui-là, on lui dit, si tu veux un chat siamois, il faudrait que tu connaisses quelqu'un qui en a un et tu lui dis, Inch'Allah Ta'ala, quand ce chat, yani, mettra au monde d'autres, promets-moi, Inch'Allah Ta'ala, de m'en donner un. Non, c'est tout. Mais il ne faut pas l'acheter. Autre chose. Page 55. Le comité de fatwa a dit, le comité de fatwa a dit, page 55, page 55, il a dit, يجوز الاتجار في المصاحف لما فيه من التعاون على الخير. Donc le comité a dit que c'était permis de vendre quoi? De vendre et d'acheter, bien sûr. De vendre les mushafs. Les mushafs, c'est quoi? C'est le Coran, le livre. Il est permis de le vendre et de l'acheter. Il a dit parce que ça comporte quoi? Ça comporte ta'awun 'ala al-khair. Donc, ils ont dit ici quoi? Ils ont dit, le comité du fatwa a dit, il est permis d'acheter et de vendre le mushaf, le Coran. Pourquoi? Il a dit parce que ça comporte une entraide. Car si ça ne se vendait pas le Coran, si c'était interdit de le vendre, alors comment me débrouiller un Coran pour le lire? Ce n'est pas tout le monde qui va m'offrir un Coran. Donc, comment je vais lire le Coran? C'est pour ça qu'il est permis de l'acheter et de le vendre. Ils ont dit, page 59. Page 59, ils ont dit. Ça parle de qui? Ça parle d'une personne qui était associée avec un autre frère. Et ils ont une épicerie ou quelque chose comme ça. Et l'autre frère, qu'est-ce qu'il fait? Il vend des cigarettes. Alors celui qui ne vend pas des cigarettes a demandé au comité de fatwa, est-ce que c'est permis que je reste associé avec mon frère? Alors que moi je ne vends pas des cigarettes, mais c'est lui qui vend les cigarettes. La réponse, il a dit, la Bouddha, en yin facile à un akhawé. C'est-à-dire, la fatwa, c'est quoi? C'est obligé, il est obligé à cette personne qu'elle se sépare de ses deux frères, parce qu'elle en avait deux autres frères avec lesquels elle était associée. Il a dit, il a dit, ce n'est pas possible de rester associé avec des gens qui, eux, vendent des cigarettes. Non, il a dit, il faut que tu sortes de cette association et que tu ne fasses pas part de cette association. Non. Page 66. Page 66. D'ailleurs, écrivez-moi d'abord numéro 1 sur Paltok. Non, Muslim, qu'est-ce qui se passe? Alhamdulillah. Taïb. Page 66, ils ont dit, c'est interdit. C'est interdit de vendre les fleurs. Les fleurs qu'on donne aux malades. Aux malades. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, c'est quoi ça? C'est une habitude des chrétiens. Les musulmans, jamais, ce n'est connu dans leur dîn, ni dans leurs habitudes, que lorsqu'ils vont chez le malade, ils lui prennent des fleurs. Si je vais chez le malade, je peux lui prendre n'importe quoi, mais pas une chose qui soit spécifique des chrétiens. Car les chrétiens, quand ils vont chez le malade, ils lui achètent des fleurs. Non. Donc, il a dit ici, il est interdit de vendre les fleurs à une personne si on sait qu'elle va les donner à qui? À un malade. Car ça rentre dans les habitudes des chrétiens. Et deuxièmement, la deuxième cause qui interdit de vendre les fleurs, il a dit parce que c'est de l'argent qui est dépensé dans le vide. Pourquoi? Il a dit parce que la fleur ne tarde pas à, je cherche pas, je cherche le mot, c'est-à-dire ne tarde pas à ce que yani classe je sais pas comment on dit en français, hein. Quand une fleur reste beaucoup, 3, 4, 5, 6 jours, qu'est-ce qui lui arrive? Disons que je crois, Allah Ta'ala alam, elle se fane. Voilà, Bouzak, Jazakallah, donc, elle se fane, la fleur se fane. Donc, tu as acheté quelque chose qui va se faner. Naam. Page 67. Page 67, ils ont dit, le comité a dit, page 67. El-Ittijaru fi zinati nisa'i yundar. En ce qui concerne vendre des choses spécifiques qui sont de la parure des femmes. Il a dit, on va voir. On va voir. Est-ce que c'est. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Ida kana ya'lamu anna alladhi sayishtariha yastamiluha fil haram, fala yajuzu lahu an yabi'aha iyyah. Il a dit, par exemple, disons vendre du maquillage. Vendre du maquillage. Est-ce que c'est permis ou ce n'est pas permis? Il a dit, si le vendeur sait d'avance que celle qui va acheter ce maquillage va le mettre dans le haram. Dans le haram, c'est par exemple comme celle qui ne porte pas le voile et qui va se maquiller et sortir. Quant à celle qui met le voile, il y en a 90%, elle ne va pas le mettre dans la rue. Donc c'est comme un signe qu'elle va le mettre dans la maison. Enfin, il a dit, ouais, Emma. Donc si je sais que cette personne va le mettre dans le haram, il m'est interdit de lui vendre ces choses-là. Quant à, si je sais que cette personne va le mettre dans le halal, c'est comme la femme qui va se maquiller chez elle, ou bien entre les sœurs, ou bien entre un mariage de femmes. Il a dit, dans ce cas, si je sais qu'elle va le mettre dans le halal, je le lui vends. Mais si je ne sais pas du tout, ou la ya'lamu minhu shay'en, maintenant je ne sais ni si elle va le mettre dans le halal ou dans le haram. Il a dit, dans ce cas, je peux lui vendre bi'idhnillah azza wa jal. C'est un peu comme un homme qui vient acheter le maquillage. Est-ce que je sais, moi, cet homme, si sa femme va le mettre, par exemple, à la maison ou dans la rue? Je ne sais pas. C'est pour ça que je peux le lui vendre, bi'idhnillahi azza wa jal. À moins que, bien sûr, je sois sûr que cet homme, c'est un kafir et qu'il va la donner à sa femme, etc. C'est un signe clair. Autre chose. Ils ont dit, page 68. La yajuzu shughlu al-ma'adin wal-ahjar بالآيات القرآنية ولفظ الجلالة لما في ذلك من صرف هذه الآيات عن المقصود العظيم منها وما يخشى من تعريضها وتعريض لفظ الجلالة للامتهان وكذا وجود سورة الرأس عليها. نعم. Ils ont dit, page 68, ils ont dit ce n'est pas permis, c'est-à-dire c'est interdit en islam. c'est interdit en islam de mettre dans, par exemple, les émeraudes, de mettre dans les diamants, de mettre, par exemple, dans l'or, par exemple, c'est-à-dire de mettre des versets. Là, vous voyez des fois, il y a des chaînes, par exemple, il y a des chaînes où c'est écrit, par exemple, La ilaha illallah. Ou bien, il y a des choses comme ça en or ou là en argent, là, où il y a des versets à l'intérieur. Il a dit tout cela, ce n'est pas permis. Pourquoi? Parce que le Coran n'a pas été descendu pour qu'on le l'accroche comme ça, dans le mur, ou sur le mur, ou là dans des choses qu'on accroche autour du cou. Mais le Coran a été descendu. Pourquoi? Pour faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière, et pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit ensuite, la deuxième chose qui interdit cela, c'est quoi? C'est que si une personne avait, par exemple, un verset, ou bien le mot Allah, par exemple, sur sa chaîne, là, sur sa gourmette, ou là, sur sa bague, ou là, hein, elle l'oublierait sûrement, et elle va rentrer avec dans les toilettes. Ou bien elle peut s'asseoir dans des endroits qui ne sont pas bien. Alors qu'elle a, sur la chaîne, c'est écrit Allah Azza wa Jal. Donc elle a fait rentrer, yani, l'afd al-jalal, l'afd Allah Azza wa Jal, elle l'a fait rentrer dans une assise, yani, qui n'est pas bien. Qui n'est pas bien. Donc c'est pour cela que yani, c'est interdit, bi'illah Azza wa Jal. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah. Tayyib, on continue, inshallah. Ta'ala. Naam. En page 70, dans la page 70, ils ont dit: La yajuzu bay'u al-hayawan al-mayyit illa as-samak wal-jarad. En islam, il est interdit de vendre un animal mort. Vous comprenez? Un animal mort. Qu'est-ce que ça veut dire mort? Ça veut dire qu'il n'a pas été égorgé. S'il est égorgé, je peux le vendre. J'ai égorgé un lapin et je le vends. C'est normal. Mais maintenant, s'il est mort, hein, il est mort, par exemple, il a mangé quelque chose, il est mort. Ou bien il s'est étranglé sans le vouloir. Cet animal, je ne peux pas le vendre. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Il n'a pas été égorgé. Sauf, bien sûr, quoi? Sauf le samak, le poisson, et le jarad, c'est. Je cherche comment ça s'appelle, le jarad, j'ai oublié. C'est pas l'hirondelle, c'est. Qui peut me rappeler c'est quoi le jarad? J'ai oublié. Ce sont des trucs qui volent comme ça. Yani on est, c'est un grand groupe. S'ils tombent sur un jardin, ils vont tout dévorer. Ils vont tout dévorer. J'ai oublié comment ça s'appelle. Comme ça, des insectes et sauterelles. C'est ça. Naam. Donc, ce qu'on peut vendre comme mort, seulement un poisson ou bien une sauterelle, le criquet. C'est la même chose. Sinon, c'est interdit de vendre quelque chose de mort. Ensuite, ils ont dit aussi, ولا يجوز أخذ المال في مقابل التبرع بالدم لأنه بيع للدم وقد نهى عليه الصلاة والسلام في الصحيح عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي. Ils ont dit, c'est interdit de prendre يعني, de l'argent en contrepartie si on va donner un peu de notre sang. Non. Pourquoi? Car ça va rentrer dans la vente du sang. C'est pour ça que certaines personnes, comme moi j'ai vu comme ça quand j'étais au Koweït, ils te disent, viens, donne un peu ton sang et on va donner un dinar. Un dinar koweïtien. Or, beaucoup de gens y allaient, surtout les pauvres. Ils vont là-bas, ils te disent, moi je ne perds rien, je vais gagner un dinar. Ils lui donnent un peu, il revient dans une demi-heure, un autre dinar et comme ça. Hein, ceci est haram. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de vendre le sang. Or, le messager d'Allah a interdit qu'on vende le sang. Et il a aussi interdit yani, l'argent du chien, c'est-à-dire si on le vend. Et il a aussi interdit yani, ce que yani, la fornicatrice prend comme argent. Non. Ils ont dit page 75. ولا يجوز شراء المجلات التي فيها صور النساء بأخذ الموديلات لما في فيها من الترويج لها. Il a dit, ils ont dit, le comité a dit, il est interdit d'acheter les revues où il y a des femmes, il y a des femmes pour prendre des modèles. Il a dit, certaines femmes, peut-être des couturières, achètent des livres où il y a des femmes, où ce sont, il y en a qui posent comme ça avec des certains vêtements pour des modèles. Il a dit, parce que si on achète ces livres-là, donc ça va aider à propager, ça va aider à propager la fitna. Ils ont dit ça, page 75. Ensuite, ils ont dit, page 90, il y a juz ou bi'u silati bi'akthar min si'riha al-hadir ila ajal. Ils ont dit, si quelqu'un a une marchandise à vendre, que son prix, par exemple, est de 100 euros, il peut la vendre, hein, il peut la vendre à, par exemple, à 120 euros, ou bien 150, si on le paye à prix. Il a dit ça, c'est possible. C'est-à-dire quelqu'un qui a une marchandise qui vaut, par exemple, 100 euros, hein, au lieu de la vendre maintenant cash à 100 euros, il a dit, je vais la vendre, hein, à 120 euros, mais à condition, et je vais faciliter à l'acheteur en lui disant de me payer par tranche. C'est pas de me payer cash. Au lieu qu'il me donne maintenant cash 100, je préfère la lui vendre par trait. Mais à condition que ça soit 120 ou 150. Ils ont dit ça, c'est permis. Ils ont cité le hadith dans le Bukhari que Barira, radiallahu ta'ala, une esclave, s'était achetée elle-même. Elle s'est fait acheter. Car comme je vous ai dit, l'esclave, ça s'achète, ça se vend. Un esclave peut s'acheter de son maître. Il dit à son maître, combien je coûte? Il dit par exemple 100 euros. Il lui dit, je te donne 100 euros, il libère-moi. C'est le mohim. Berira, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est achetée. Elle s'est achetée pour combien? Pour 9. 9 awaq. Awaq. Comme on dit maintenant, dinars, euros. Autrefois, awaq. Fi kulli am awqiya. À condition que chaque année, elle donne une awqiya. Donc, elle avait des dettes pour 9 années. 9 années. Elle devait payer pendant 9 années. Non. Chaque année, elle donne awqiyatun. Ici, ils ont dit. Très bon, on va s'arrêter aussi. Il est déjà minuit, inshallah ta'ala. Et on va laisser la suite, inshallah ta'ala, pour la prochaine fois. Puis, idna azza wa jal. Sans tarder, je vous donne le micro. Tafadda.
Naam, salam alaikum. Le son il est clair, Inch'Allah. Naam, donc avant de commencer, Inch'Allah, au niveau de InSpeak, je n'ai reçu aucune question. Et le frère Abouzak a mis un message sur la room, Barakallahu fikoum, d'envoyer vos questions. Donc j'attends, Inch'Allah. Et là, nous commençons donc par les questions de Paltalk. Donc la question de Abu Mohamed. Une personne a une dette à la banque, elle n'arrive pas à la payer, est-ce que je peux lui donner la zakat? C'est un découvert. Donc, est-ce qu'on peut donner la zakat pour combler ce découvert? Tfadal Cheikh.
Alaykoum salam, j'ai pas compris ce que ça veut dire découvert. Tfadal.
Naam Cheikh, un découvert, c'est par exemple, si dans mon compte, j'ai plus d'argent. La banque me donne un découvert, par exemple, de 200 euros. C'est-à-dire, elle va me donner de 200 euros, malgré que je les ai pas dans mon compte. C'est pour me dépanner. Et donc, cette personne a un découvert. Donc, elle a utilisé de l'argent qu'elle n'avait pas. Et elle n'arrive pas à rembourser cet argent qu'on lui a prêté. Tfadal Cheikh.
Et la banque, quand elle lui a prêté cet argent, elle le lui a prêté avec intérêt ou sans? Tfadal.
Donc moi on me dit qu'il y a intérêt, par contre je vais poser la question au frère. Abu Mohamed, je t'ai enlevé le raid, Inch'Allah réponds directement sur la room. Est-ce que ce découvert il y a intérêt ou pas? Parce que je ne sais pas si c'est dans tous les cas qu'il y a intérêt. Inch'Allah réponds directement sur la room. Abu Mohamed, est-ce que tu es là Inch'Allah? Law alam cher, il ne répond pas.
Afouane, si je t'ai enlevé le mic, Nam, parce que je vois que tu as du décalage, Nam, car il a répondu et tu n'as pas vu toi. Hein, premièrement, deuxièmement, avant lui, avant qu'il ne réponde, j'avais écrit mic, c'est-à-dire donne-moi le micro. Moi-même, je vais répondre dans les deux cas. Dans le cas, et puisque c'est pas la peine que je réponde dans les deux cas, puisqu'il a dit qu'il y a les intérêts. La règle de la zakat, on ne la donne jamais pour quelqu'un qui a fait du haram. Mais on la donne pour quelqu'un, hein, qui a, yani, par exemple, des dettes de halal, pas de haram. Hein. C'est pour ça que si on veut donner de l'argent à cette personne, on lui donne en contrepartie de l'argent qu'on lui doit, pas des intérêts. Par exemple, une personne m'a prêté 100 euros et m'a dit, tu me rends 120. Moi, je peux l'aider en lui donnant 100 euros, c'est tout. Je lui dis, voilà les 100 euros que tu as prêtés. Les 20 autres, va te les débrouiller d'autre part. Non, je ne te paye pas le haram. تفضل إن شاء الله لو بروشان والله عز وجل أعلم.
Donc, Naam, cher, c'est moi qui dois avoir un problème. Allahu a'lam. Donc, je préfère pas écrire sur la room parce que je ne sais pas si vous me lisez lorsque j'écris. Donc, lorsque vous me posez une question, Inch'Allah, je réponds directement au micro. Donc, on passe à la question suivante. Ne me parlez pas. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah Ta'ala vous récompense de tout ce que vous faites. Depuis quelque temps, je me sens très mal. J'ai l'impression d'avoir quelque chose en moi qui m'incite au mal, à être méchante avec mon mari, avec les sœurs, etc. J'ai peur d'entrer aux toilettes. On dirait que des démons vont me prendre. Ou quelque chose me frappe à l'intérieur. Je sens bouger, etc. Je lutte pour ne pas faire le haram, mais c'est très très dur. J'ai des choses en tête, telles que divorcer, m'amuser, sortir, etc. Comme si j'étais une mécréante. Or, je sais que si je fais cela, j'irai en enfer. Allahu a'lam. Quand mon mari veut me faire ruqya, ça me brûle et j'ai peur et je ne veux pas. Que dois-je faire? Car j'ai peur de faire des choses irréparables et mon comportement est inexplicable. J'ai tout pour être heureuse. Alhamdulillah. Barakallahu fikoum, cher. Qu'Allah vous préserve. Tfadal, cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Tout me pousse à dire que cette personne, inshallah ta'ala, est possédée et que elle a quelqu'un, un djinn ou bien beaucoup d'autres avec elle, que Allah ta'ala nous en préserve. Mais je veux la rassurer que ce n'est pas quelque chose de grave, bien azawajal, d'avoir un djinn. Beaucoup, beaucoup de musulmans, des millions en ont. Mais ce qui est grave, c'est de le laisser faire ce qu'il veut et de ne pas le combattre, et de ne pas faire la ruqya, et de ne pas le faire sortir. C'est ça ce qui est grave, parce qu'il va nous pousser à faire des choses, yani, qu'on ne veut pas faire, et peut-être même nous pousser à sortir de la religion, si c'est un kafir. Naam. C'est pour ça que il faut que cette personne se force à aller faire la ruqya, bin azawajal, car c'est l'une de quoi? C'est l'une, yani, des solutions, hein, qui peut, bien azawajal, lui faire changer, yani, la mauvaise situation qu'elle vit maintenant, bien azawajal. Et elle doit faire beaucoup de dhikr, beaucoup d'invocations à Allah azawajal, de la préserver. Normalement, dans chaque soujoud, elle fait une invocation à Allah azawajal, de l'aider et de la préserver du shaitan. Et de lui dire, Allah, tu sais ce qu'il y a dans mon nefs, et je ne sais pas ce qu'il y a dans ton nefs. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Fais à Allah, aidez-moi contre ce démon, contre les shayatins, contre le ouswas, aidez-moi à Allah Azza wa Jal. Et en même temps, elle va se forcer à aller faire, pas une ruqya, mais peut-être plusieurs, bidna ta'ala, pour que, yani, Allah Azza wa Jal la guérisse. Wallah Azza wa Jal a'lam. Na'am. تفضل.
Donc on passe au InSpeak. Et c'est la question de Selafia 9. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Quelles sont les conditions pour mettre en garde contre une personne? C'est une personne qui fait des choses graves, mais dont peu de gens ont connaissance. Tfadal, cher.
Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour pouvoir mettre en garde contre une personne, il faut d'abord lui donner des nasihats et lui montrer quelle est la faute qu'elle est en train de faire. Lui montrer quelle est la faute qu'elle est en train de faire. Ensuite, si la personne ne revient pas, si la personne ne veut pas revenir vers le haq, et que en plus de cela, elle fait la da'wa au faux. Non seulement elle ne veut pas revenir, mais elle ne se tait pas. Elle commence à induire les gens en erreur, etc. On doit mettre en garde contre cette personne et ça ne rentre pas dans la médisance. Car le messager d'Allah a dit à la femme, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ne te marie pas avec Muawiya, parce que c'est un pauvre. En disant de lui, c'est un pauvre, ce n'est pas de la médisance. Ni ne te marie pas avec Abu Jahm, avec M, Abu Jahm, parce qu'il frappe les femmes. On ne va pas dire que c'est de la médisance ici. Non, je vais me taire et je vais laisser yani ma voisine se marier avec cet homme-là qui, le premier jour, il va la battre et le deuxième jour. Je connais ses habitudes qu'il bat les femmes. Donc le message de là était clair. Il lui a dit, ne te marie pas avec X et avec Y, mais marie-toi avec Oussama. Oussama, radiallahu ta'ala anhu. Donc, pourquoi je dis comme ça? Car beaucoup croient que ça rentre dans la médisance. Non, ça ne rentre pas dans la médisance quand je fais une nasiha à une personne et elle ne veut pas revenir. Elle ne veut pas revenir une fois, deux fois, trois fois. Ensuite, je dis aux gens, attention, non, attention à cette personne, elle est ceci ou elle est cela. Non, quand je sais que ce qu'elle fait, yani, peut faire du mal aux autres. Maintenant, si elle fait une chose entre elle et son Seigneur, comme par exemple elle boit de l'alcool en cachette ou là, ça c'est plus ou moins entre elle et son Seigneur. Mais si c'est quelque chose qui touche les autres, qui touche la société, non, c'est comme ceux qui font la da'wa. Ou bid'a, ou takfir, ou chiisme, ou ceci, ou cela, cela, on a des grandes récompenses si on met en garde contre eux. Car hein, ils sont en train de tordre le dîn, ils sont en train de quoi? D'égarer les gens. Et pourquoi alors on a appris cette religion si on ne combat pas pour elle? Pourquoi on apprend cette religion si on ne la défend pas? Si on voit les gens, yani, induire les gens en erreur, et on reste muet. Hein, on reste muet. Que Allah Azzawajal nous en préserve. Tfadhal.
Donc la question suivante sur Paltalk, Oum Amina Sarah. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakum Allah, cher. Il y a une sœur qui est à la rue. Elle refuse catégoriquement d'être hébergée dans une maison dans laquelle se trouve un homme, même si les règles de mixité sont respectées. Elle préfère dormir dehors. Je me suis proposé de l'héberger, mais le souci, c'est que personne ne la connaît réellement. Elle ne veut pas donner le numéro de l'ancienne personne qui l'héberge. Elle a dit que c'était mal, que ça s'était mal passé et qu'elle craignait que cette personne nous parle avec colère et passion sur elle. Et surtout, les seules infos qu'on a, c'est que son mari a été expulsé en Bosnie. Que nous conseillez-vous? Tfadal.
Voilà, franchement, je n'ai pas bien compris. Il y a certains mots que je n'ai pas entendus. Est-ce que tu peux répéter? Est-ce que tu as dit que c'était une sœur ou là tu as dit une femme? Pardon.
C'est une sœur. Il y a une sœur qui est à la rue. Elle refuse catégoriquement d'être hébergée dans une maison dans laquelle se trouve un homme, même si les règles de mixité sont respectées. Elle préfère dormir dehors. Je me suis proposé de l'héberger, mais le souci, c'est que personne ne la connaît réellement. Et elle ne veut pas donner le numéro de l'ancienne personne qui l'a hébergée. Elle a dit que ça s'était mal passé et qu'elle craignait que cette personne nous parle avec colère et passion. Et surtout, les seules infos qu'on a, c'est que son mari a été expulsé en Bosnie. Tfadashir.
Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdoulillah, toi tu as dit, ou là la personne a dit que, yani, elle s'est proposée que la personne ne veut pas. Si la personne ne veut pas, alhamdoulillah, moi je n'ai aucun péché devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, moi je ne suis pas obligé de d'héberger n'importe quelle personne sans que je sache qui est cette personne. Il se peut que j'héberge une personne et que cette personne soit, par exemple, dans la liste des recherchés de la clique de Ben Laden. C'est un exemple. Ensuite, on trouve cette personne chez moi. Classe. Toute ma famille, yani devient, ça devient très grave pour moi, alors que je voulais faire du bien. Donc, yani je ne suis pas obligé d'héberger cette personne tant que je ne connais pas qui c'est cette personne. Qui c'est, quel est son minhaj, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait là, qu'est-ce qu'elle veut, etc. Je ne suis pas obligé de prendre n'importe qui et de l'emmener chez moi, premièrement. Deuxièmement, si vraiment sa cause, c'est la peur de la mixité, etc., c'est que celle-là, vraiment, elle ne connaît pas le dîn. Elle ne connaît pas le dîn. Non, mais elle croit que on n'a pas le droit de passer la nuit dans un appartement, non, où il y a un homme. C'est-à-dire, s'il y a un homme et une femme, il y a un couple dans un appartement, d'après la nuit dans cet appartement, parce qu'il y a un homme. Et celle-là, ça veut dire que vraiment, elle est loin de la science. Elle est loin de la science. Et que, yani, vraiment, celle-là, elle a un minhaj vraiment déformé. D'ailleurs, si elle avait juste un peu de aql, non, elle avait un peu de raisonnement, elle aurait dit, mais si c'est un mal de dormir dans une maison où il y a un homme, c'est un plus grand mal de dormir dans la rue. Dans la rue, où elle peut être victime de voyous et de truands alors que dans la maison où il y a un couple, elle serait sûrement en sécurité. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Tfadla le suivant.
Donc c'est la question de Abu et Abdullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après 24 ans de mariage, mon mari m'a divorcé et je suis actuellement en période de viduité. Je vis toujours chez lui. La cause du divorce est que ma fille de 23 ans a connu un homme. Elle est partie avec lui après que son père l'a mise dehors suite à des sorties la nuit et des avertissements de la part de ses deux parents. Il met la cause sur moi. Ma fille de 21 ans a essayé de résoudre le problème, mais il n'a rien voulu savoir. Il est sûr de divorcer. Comment puis-je régler le problème? J'attends vos conseils. Barakallahu fikoum. J'ai 4 enfants. Quel sera le jugement s'il maintient le divorce après la période de viduité, étant donné que je vis encore avec lui? Jazakumullahu khairan. Allahu musta'an. Tfadal cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Si la personne, c'est-à-dire celle qui vient de poser la question, c'est-à-dire la femme elle-même, n'a rien à voir dans ce sujet, et que au contraire, elle a vivement conseillé sa fille de ne pas faire ces choses et elle les a faites. Dans ce cas, elle n'a aucune responsabilité ni devant Allah subhanahu wa ta'ala, ni devant son mari. Naam. Maintenant, reste à savoir yani, comment qu'on va faire pour essayer de le raisonner. La meilleure solution pour le raisonner, c'est toujours yani, de faire venir la famille, de faire venir les gens qui essayeront de le raisonner. Car c'est impossible qu'une femme fasse raisonner son mari elle-même, comme ça, dans un cas, yani, un litige comme celui-là. C'est pour ça qu'elle devra avoir recours, ou bien à sa famille à elle, ou bien à sa famille à lui, d'après. Yani, quels sont les gens qui influent sur lui? Des fois, on trouve que le mari, yani, par exemple, respecte beaucoup le père de la femme, c'est-à-dire son beau-père. Dans ce cas, je fais appel à mon beau-père. Et dans d'autres cas, il respecte beaucoup son père à lui. Dans ce cas, je fais appel à son père. Et je lui explique et je lui dis, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, il m'a divorcé, alors que je n'ai rien à voir dans cette affaire. Et dans d'autres cas, on fait appel à des amis à lui. Et comme ça. Maintenant, s'il maintient le divorce, naam, est valide, bien sûr. Et ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala yani, a écrit cette chose et il ne reste plus que quoi? Qu'à essayer ou bien de résoudre le problème ou bien de patienter. Ou bien de patienter et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire une issue. Et nous tous, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te faire une issue et de faire raisonner ton mari. Fadla le suivant.
Donc nous passons au Winspeak et c'est la question de Abou Zak. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. un jeune frère effectue un stage en entreprise pour son lycée. Cette entreprise fait des travaux dans une église. Il nous demande s'il lui est permis d'entrer dans cette église. Tfadal cheikh.
Rentrer dans l'église en lui-même n'est pas une chose interdite. Ce qui est interdit, c'est de rentrer dans l'église pour adorer le Jésus, ou bien rentrer dans l'église pour yani, encourager les gens, ou bien multiplier leur nombre. C'est pour ça que si vous lisez les livres de fiqh, vous allez trouver qu'il est permis de faire la salat, notre prière, il est permis de la faire dans l'église. Et Omar ibn Khattab l'a fait, comme c'est dans un hadith mawquf authentique. Al-Muhim, ils ont dit à condition qu'il n'y ait pas les statues et qu'il n'y ait pas yani, la croix, etc. Donc maintenant, on va voir pour cette personne, yani, pourquoi elle va dans l'église. Pourquoi elle va dans l'église? Il a dit qu'ils font des travaux. Je n'ai pas compris quel genre de travaux ils font. J'attends Inch'Allah Ta'ala qu'il réexplique.
C'est des travaux de rénovation, cher. Maçonnerie. Donc c'est un stage de maçonnerie afin de rénover l'église. Tfadal, cher.
Naam, fi ilmi, Allah Azza wa Jal alam. D'après ce que je sais, Allah Azza wa Jal alam, c'est que c'est interdit d'aider yani, à rénover une église, même si c'est dans un stage. Ça rentre dans ta'awun al-ithmi wal-udwan. Car il est en train de quoi? De rénover une maison où on vient dire que Allah Ta'ala a un fils. Je vais aider les gens à ce qu'ils viennent dans cette église qui sera rénovée, qui sera belle, qui sera nouvelle, pour qu'ils viennent là-bas dire que Allah Ta'ala yani, a un fils ou a un enfant. Wal-iyadu billah. C'est pour ça que si on l'emmène là-bas de force, il faudrait qu'il fasse tout son possible pour qu'il ne fasse rien. Pour qu'il ne fasse rien, il laisse les autres rénover et lui, yani, il fait semblant d'aller aux toilettes, il fait semblant de vomir, il fait semblant d'avoir mal à la tête, il fait semblant de je ne sais pas quoi. J'allais dire, astaghfirullah. Tfadla le suivant.
Monsieur, la sœur qui avait posé la question précédente, elle voudrait juste un éclaircissement sur une partie de la question dont vous n'avez pas répondu. Elle demande le hukm, c'est-à-dire le jugement, si le divorce donc a lieu concernant les enfants, etc. Et que doit-elle faire au niveau de son lieu d'habitation? Est-ce qu'elle doit sortir de la maison ou est-ce que ça revient à elle? Tfadal cher. Et je lui enlève le raid. Savoir si vous répondez bien à sa question.
Alaykoum salam wa rahmatoullah. Il faudrait savoir qu'en islam, une femme divorcée n'a pas le droit au logement après la période de viduité. Une femme divorcée en islam doit, après la période de viduité, quitter yani, la maison conjugale pour aller vers ses parents, parce que elle ne peut pas garder un logement qui ne lui appartient pas. Reste à savoir maintenant, comme en France, je crois, Allahu Ta'ala alam, que la plupart, je crois que la plupart des yani chez vous, c'est que l'homme et la femme sont associés dans l'appartement. Je crois, si elle sait qu'elle a déversé quelques sous pour cet appartement, dans ce cas, elle est yani, associée avec lui d'après l'argent qu'elle a employé. Maintenant, elle dit, et les enfants, j'en ai quatre. Naam, les enfants, tu dis à ton mari, je te les laisse. Naam, ce sont pas mes enfants, je les ai pas eus de la rue, je les ai eus de toi. Donc maintenant tu me divorces, voilà, je te laisse les enfants, bi'idhni azza wa jal. Et on va voir si tu peux t'en sortir seul. Naam, voilà ce qu'elle fait, bi'idhni ta'ala. Mais je demande à Allah ta'ala qu'il l'aide et que ça n'arrive pas à cette chose et qu'il fasse raisonner son mari et qu'il raffermisse son cœur. En ce mois du Ramadan béni. Amin ya Rabbal Alamin.
Donc la question de Bismillah 25. Salam alaikum. J'ai transmis cette question de la part d'une sœur souhaitant rester anonyme. Barakallahu fikoum pour votre réponse, cher. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question est anonyme. Voilà, j'ai 19 ans. Je me suis converti il y a un an, alhamdoulillah. Et au jour d'aujourd'hui, je vis avec mon mari chez ma mère et mon beau-père mécréant, car nous avons des problèmes de logement. À l'âge de 9 ans, mon beau-père m'a fait des attouchements. Après ce viol, mon beau-père a menacé de me tuer si je le dénonçais. Il y a 6 ans, j'en ai parlé à ma famille, mais ils m'ont traité de menteuse. Malheureusement, mon beau-père a recommencé avec ma petite sœur, âgée de 16 ans, il y a un an. Face à cela, ma famille se cache la vérité et a fait des menaces à ma sœur si elle en parlait à la police. J'aimerais savoir quel comportement dois-je avoir par rapport à mon beau-père, sachant que beaucoup de haine est présente, et que faire pour éviter que mon beau-père tente de faire la même chose avec ma petite sœur de 7 ans. L'Amoustan. Je compte partir de chez ma mère, mais je ne sais pas quand. Barakallahu fikoum pour votre réponse. Salam alaykoum. Tfadal cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je dis à cette personne, si tu sais que ta petite sœur Hadi, à laquelle il vient de faire le même mal, bi'idhna azza wa jal, peut témoigner avec toi, alors il est permis de déposer une plainte chez la police. Il est permis de déposer une plainte chez la police. Non, pourquoi? Parce que c'est pour, il y a aucun moyen ici d'éloigner ce mal qu'en ayant appel à cette police. Ça n'a rien à voir avec le jugement d'Allah ou le jugement qui n'est pas d'Allah. Ici, c'est comme si quelqu'un veut me tuer et je fais appel au plus proche qui est devant moi, que ce soit un communiste ou un chinois ou un juif. Il vient juste m'aider pour que cette personne ne me tue pas. Or ici, je dis, si tu sais que ta soeur aussi peut t'aider, et qu'elle ne va pas renier après, et que tu peux déposer plainte à la police ou là je ne sais pas où, et qu'il ne va rien t'arriver de ton beau-père, il ne va pas te tuer ou là ni de tes parents, alors fais-le. C'est pour ça que je te dis avant de le faire, c'est pour ça que ce qui m'a réconforté, c'est qu'à la fin tu as dit je compte partir chez mon beau-père. Ce serait encore mieux si tu pouvais déposer plainte en étant loin de lui. Et loin de ceux qui peuvent te faire du mal, bidna azzawajal, car celui-là, c'est un criminel. C'est un criminel et il n'y a aucune façon d'arrêter son crime. Et moi, j'ai lu une fatwa des grands savants d'Arabie Saoudite. Si je me trompe pas, inshallah ta'ala, si je me trompe pas, c'est Mohammed ibn Ibrahim, alayhi rahmatullah, si je me trompe pas. Sinon, c'est un grand savant qui a dit que c'était permis de déposer plainte dans des pays de kuffar, il a dit, c'est juste pour pousser le grand mal par un petit mal, en faisant un petit mal. Wallah Azza wa Jal a'lam. La sœur demande aussi quel comportement avoir avec son père, vu qu'elle le déteste. Quel père? Je n'ai pas compris ici. Elle vient de dire que c'est son beau-père.
Non, cher, je pense qu'elle s'est trompée en écrivant, car on a toujours parlé de son beau-père dans la question, donc je pense que c'est son beau-père. Quel comportement doit-elle avoir avec son beau-père, vu qu'elle le déteste? Tfadal, cher.
Quel comportement avoir? Je viens de le lui dire. Naam. Je viens de le lui dire. Maintenant, si elle vit avec lui, elle fait de sorte qu'il ne lui fasse pas mal. Elle se comporte avec lui de façon à ce qu'elle éloigne de lui, tout ce qui peut lui faire mal. Bidna Naam. Mais maintenant, si elle va quitter l'appartement pour aller vivre chez d'autres et qu'elle peut déposer plainte contre lui en sachant, moi je ne sais pas comment ça se passe chez vous, en sachant que quand on dépose une plainte pour une chose pareille, on a raison. On risque pas d'aller en prison ou de payer une amende ou là pour dire que ce n'est pas vrai, que vous êtes menteur, etc. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous quand quelqu'un dépose plainte contre attouchement ou là contre inceste ou là. C'est pour ça que j'ai dit. Si ça, il mène une enquête. Non, c'est pour ça que j'ai dit, il faudrait que sa petite sœur, il faudrait qu'elle soit sûre que sa petite sœur, on va pas lui changer d'avis, et après elle va dire non, c'est pas vrai. Va dire c'est pas vrai, et peut-être que même on va la pousser à dire que c'est ma grande sœur qui m'a donné de l'argent, etc. Il m'a dit il faut dire cela. C'est pour ça que, comme j'ai dit, il faut qu'elle soit sûre que Yannick, sa petite sœur ne va pas revenir marche arrière. Quant à maintenant, si elle fait rien et qu'elle vit toujours chez eux, elle doit faire son possible comment Yannick éloigner le mal avec hikma et avec sagesse. Allah Azza wa Jal a'lam.
Donc on passe sur le InSpeak. Cher, la question n'est pas passée en PV. Est-ce que vous pouvez enlever le raid à Yadoun? Qui est juste après Salafia 9. Yadoun. Enlevez-lui le raid, Inch'Allah, pour qu'elle la pose sur le sur la room. Donc Yadoun, vous m'entendez, Inch'Allah, poser la question directement sur la room. En PV, elle ne passe pas. Salam alaikum. Une sœur vivant à 300 km de chez ses parents, son mari refuse de l'emmener visiter ses parents en lui disant tu es marié maintenant. Et ses parents veulent que ce soit elle qui se déplace. C'est bien de visiter ses parents une fois tous les combien, chir, quand ils habitent à 300 km. Et que dire du mari? Peu compréhensif. Barakallahu fikum. Fadal chir.
D'interdire à son épouse qu'elle ne voit plus jamais ses parents. Car ça rentre dans quoi? Ça rentre dans la coupure des liens. Donc moi, je me suis marié pour que je coupe les liens avec ma famille. Je me suis marié pour ne plus parler avec mon père et je me suis marié pour ne plus parler avec ma mère ou là, ne plus les voir. Non. C'est pour ça qu'ils ont dit, ça rentre dans le verset Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ça rentre dans le verset. Il ne m'a pas dit une fois, tu vois. Non. Mais par contre, il est permis au mari de refuser à sa femme qu'elle aille chez ses parents. Non. S'il sait par exemple que à chaque fois qu'elle va là-bas, ils vont la remplir de mauvaises choses, ils vont lui remplir la tête, ils vont lui monter la tête, ils vont lui mettre du sihr, ils vont lui mettre des choses. Dans ce cas, il peut interdire à sa femme d'aller chez ses parents car ils vont être la cause de quoi? Ils vont être la cause de, yani, de son mariage. Ils vont être la cause de la rupture, yani, de son union avec sa femme. C'est pour ça qu'il peut lui dire, elle dit ici, yani, quand est-ce qu'on peut aller voir chez ses parents, etc. Il n'y a pas une date en islam. Non? Il n'y a pas une date en islam qui dit que une femme doit aller une fois par an, ou là une fois par mois, ou là une fois par 3 mois, ou là. Cela dépend de qu'est-ce qui se passe chez mes parents, et cela dépend de yani, la compréhension du mari, et cela dépend du temps libre qu'il a, et cela dépend. Non? Il n'y a pas quelque chose en islam qui dise et qui montre qu'il faut, par exemple, une fois par mois, ou là par 3 mois, ou là par an. Il y a des histoires entre les deux familles, les deux familles sont la tête. Je vais tirer une balle, subhanallah. Non, il faudrait, inshallah ta'ala, parler avec le mari gentiment et le conseiller. Non, et le conseiller et lui dire que, comme toi aussi, tu aimes tes parents, il faudrait que tu saches que moi aussi j'aime mes parents et que yani, toute personne a besoin de voir ses parents de temps en temps et d'aller les visiter. Non. Et de lui faire la morale, Inch'Allah ta'ala. Naam. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il raffermisse son cœur et comprenne la situation. Tfadhal.
Donc la question suivante, Mouahiddin. Salam alaikum, bismillah. Est-il permis de faire le rawatib à voix haute chez soi pendant le ramadan et hors ramadan? Et la femme peut-elle répondre à son mari à voix haute lorsqu'il se trompe dans la salat? Jazakallah, jazakumullah khayran, ahsanallahu ilaykum. Tfadal chir.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatouh. Ensuite, je profite pour... Kifa hal a'ila, kifa hal awlad. Wa atik inshallah, akhil karim, wa atik laqit, li tusallima alayna, wa tukhbirana, ma huwa hal ikhwa hunak. Tfadal.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اطمئن على الصوت اولا يا اخوان، هل في صوت؟ بارك الله فيكم. طيب الحمد لله. ارحب بالاخوه جميعا في هذه الغرفه الطيبه، واخص بالترحيب بالشيخ الجليل الفاضل الشيخ محمد تشلابي حفظه الله عز وجل، واسال الله تبارك وتعالى ان يسدد مسعاه ويبارك في خطاه، وأن يجعله هاديا مهديا، وأن يجعلني وإخواني الحاضرين جميعا من المتعاونين على البر والتقوى، المتواصين بالحق وبالصبر، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا أريد أن أطيل وأقطع إجابات الشيخ أثابه الله على تساؤلات إخوانه، لا سيما وأنها باللغة الفرنسية التي يفهمونها أكثر من العربية، سأل الله أن يوفقنا وإياهم الخير. فأقول كل الأخوة لله الحمد بخير، والشيخ فلاح إسماعيل خرج من المستشفى لله الحمد وصحته في تحسن ولله الحمد والمنة، وكلهم يقرؤونكم السلام ويحبونكم في الله عز وجل، وإن شاء الله يلتقون معكم في هذا المنهج الطيب، وفقنا الله وإياكم لمرضاته. بارك الله فيك شيخ محمد، اللاقط لك.
بارك الله فيك شيخ أبو عبد الرحمن، جزاك الله خيرا ووفقك لما يحب الله عز وجل ويرضاه، وأسأل الله عز وجل أن يعافي شيخنا الكريم وأن يحفظه، وأسأل الله عز وجل أن يلاقينا عن قارب. Ensuite, je réponds inshallah ta'ala à la sœur qui a posé la question en lui disant hein, que c'est permis à toute personne de lire quand elle est là, à la maison, c'est permis à toute personne, quand elle fait salat ratiba ou bien nafila en général, de lire si elle veut avoir haute, si elle veut avoir basse. Et Cheikh Ibn Hazm, rahmatullah, dans Maratib al-Ijma', son livre, il a cité l'Ijma', le consensus des savants, que cette chose était permise. Et Cheikh Islam Ibn Taymiyyah n'a pas fait de fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, Cheikh l'Islam corrigeait le commentaire. Taïf, je ne sais pas pourquoi je perds le micro à chaque fois. Je perds le micro à chaque fois. Anas, vous m'entendez, Inch'Allah? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Reste la deuxième question. La deuxième partie de la deuxième question. Elle a dit, quand je fais la salle derrière mon mari et que, par exemple, il se trompe, est-ce que je peux lui corriger étant derrière lui? Non, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi je perds le micro. Moi-même, vous m'entendez, n'est-ce pas? Vous m'entendez? Alhamdoulilah. Donc, Cheikh Ben Outaymin, Allah yirhamou, Cheikh Ben Outaymin, a dit, si une femme fait la salat derrière, par exemple, son mari, il a dit, et il se trompe, est-ce qu'elle peut lui corriger le verset, ou bien elle doit claquer des mains? Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, il y a une divergence entre les savants en cette chose. Il a dit, mais, d'après moi, quand je dis d'après moi, ça veut dire Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il a dit, mais d'après moi, il vaut mieux qu'elle lui claque des mains, c'est tout. Qu'elle ne lui dise pas, yani, qu'elle ne parle pas derrière lui, se basant sur le hadith. Lorsqu'il a dit tesfir ou l'innisa, l'innisa tesfir. Il a dit que le hadith a dit que la femme devait claquer des mains. Il a dit donc, je reste sur ce hadith. Et je dis que si son mari se trompe, alors qu'elle lui claque des mains. Wallah Azza wa Jal a'lam. Ça, c'est la fatwa de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, dans son livre. المناهي الشرعية. تفضل.
نعم، donc je passe à la question suivante. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Une sœur souhaiterait annuler son mariage car son mari l'humilie, ment énormément, ne s'investit plus du tout dans la religion d'Allah. Comment doit-elle procéder? تفضل شيخ.
Est-ce qu'elle a fait le mariage, c'est-à-dire l'acte, c'est-à-dire l'imam et les témoins et le tuteur Et il a demandé sa main devant le tuteur et les témoins, et il a accepté, etc. Est-ce qu'ils ont fait ça?
Donc attendez, je demande à la personne, Inch'Allah. Khair, Inch'Allah, cher, la personne ne répond pas. Donc répondez en général, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Tfadal, cher.
Si ils n'ont pas fait l'acte shar'i, ce n'est pas encore sa femme. Ce n'est pas encore sa femme. C'est juste, yani, comment qu'on dit ça? Un souhait qu'il allait se marier. Maintenant, s'ils ont fait l'acte shar'i, c'est sa femme. Non. Si elle voudrait se retirer, il faudrait alors quoi? Il faudrait qu'elle lui rende la dot. Si, s'il a donné une dot. S'il a donné une dot. Non. Et elle voit avec son tuteur et elle lui dit, détache-moi de cet homme. Je ne voudrais pas continuer avec lui. Et son tuteur va voir avec Yanni, ce mari lui dit, voilà, par exemple, je te rends la dot et elle fait le khola, elle fait le khola, ou bien tu la divorces, ou bien tu la divorces, nam, et elle fait ça devant deux témoins, bi'idhnillah azza wa jal. Nam. Tfadl.
Donc nous passons à une speak. Salam alaikum, cher. Pouvez-vous nous faire un rappel sur l'amitié entre frères en islam, surtout entre frères ou sœurs du même minhaj? Car malheureusement, la haine fait des dégâts au sein du minhaj salafi, alors que nous sommes censés être les plus miséricordieux entre nous. Et cela faciliterait la da'wa. Et cela facilite la da'wa des sectes égarées, étant donné que nous ne sommes pas miséricordieux. De plus, nous espérons, cher, que vous viendrez, Inch'Allah, nous rendre visite à Toulouse pour aussi faire du nettoyage du takfir. Barakallahu fikoum. Tfadal, cher.
Alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Puisque la personne a cité la ville de Toulouse, je profite pour dire que Toulouse, faut dire que c'est le bastion du takfir. C'est le bastion de quoi? Du takfir. C'est-à-dire le takfir, yani en France, yani c'est de Toulouse que yani on envoie les soldats des chayatines à droite et à gauche pour semer et propager ce le virus du takfir, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Ce qui est dommage aussi, c'est que les frères qui habitent à Toulouse ne sont pas unis et ne se sont jamais regroupés pour dire il faut qu'on fasse quelque chose contre le takfir. Il faut qu'on fasse quelque chose contre le takfir. Car si à Toulouse, la da'wa se propage, et il y a un grand massacre dans cette da'wa du takfir de la part de certaines sœurs qui ont été piquées par le virus et qui, sans savoir cela, elles croient qu'elles font du bien. Elles croient qu'elles défendent l'islam et qu'elles veulent faire le djihad et qu'elles veulent tuer les Américains, veulent tuer les Juifs, etc. Et elles croient que, yani, elles sont dans le bon chemin. Ces sœurs-là, sûrement qu'elles ont des maris et des frères. Comment les frères alors de Toulouse n'ont pas pensé à attraper leur mari, à leur parler, à leur faire la dawa, à essayer de les faire raisonner, ou bien aller à mettre en garde contre eux, s'ils ne veulent pas yani, revenir vers le haq, si quelqu'un ne veut pas revenir vers le haq, et qu'il fait la da'wa encore pour son batal et son mal et sa bid'a, dans ce cas, ça devient obligatoire pour moi que je mette en garde contre lui, même si les gens ne vont pas me suivre. L'essentiel, c'est que demain, devant Allah Azzawajal, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Demain, devant Allah Ta'ala, et Allah, vous savez que j'ai fait ce que j'ai pu, même si yani, les gens ne m'ont pas écouté, mais de moi-même, j'ai fait ce que j'ai pu, et Allah Azzawajal va me récompenser dans cette dunya et dans l'au-delà. Dans cette dunya, en voyant si je patiente et si je crains Allah Azzawajal. Et Allah Azzawajal va faire yani, les choses. Allah Azzawajal, quand il fait les choses, il ne brusque pas. Non. Il est resté 6 jours pour créer les cieux et la terre. Alors qu'il pouvait leur dire seulement soyez et elles sont. Mais c'est pour nous montrer que les choses viennent quand Allah Azzawajal décide. Ce n'est pas quand nous on décide. Non. Et ensuite, il y a des messagers, des prophètes qui vont venir Yawm al-Qiyamah avec une seule personne qui les a suivis. Et d'autres, des messagers, des prophètes qui vont venir avec aucune personne qui les a suivis. Imaginez, un messager envoyé par Allah, un élu d'Allah, aimé d'Allah. Et personne ne l'écoutera, il va venir Yom Kiyama seul, tout seul avec sa personne, Mais, subhanallah al-azim, aucune personne n'a voulu le suivre. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on fasse la da'wah et que personne ne nous suit. Pourquoi? Parce que les messagers sont passés par ce chemin. Donc, je suis sur le chemin des messagers. Mais malgré cela, parce qu'on est faible, je sais qu'Allah Ta'ala veut nous soutenir et nous montrer qu'on est dans le droit chemin et qu'il va guider des gens vers nous. Mais pas obligément maintenant. Peut-être dans un an. Nous, quand on dit des choses, les gens, des fois, n'acceptent pas. Des fois, nous disent, yani, qu'on est dans le faux, nous contrarient, nous contredisent. Mais l'essentiel, j'ai dit mon mot. Et cette personne, après une semaine, après un mois, après un an, peut-être que, après une année, peut-être que la phrase ou les mots, la conversation que j'ai entretenue avec elle, va lui faire un déclic. Un déclic après une année, un déclic après 2 années. Et comme ça, non, je fais confiance en Allah Azzawajal et je propage ma da'wah et je reste inébranlable comme une montagne. Je reste comme une montagne inébranlable dans ma da'wah. Je suis dans le haqq, comme a dit Abdullah ibn Mas'ud. Non, il a dit le haqq, il a dit la jama'a, la communauté, le groupe, c'est que tu sois avec le haqq, même si tu es seul. Non, même si tu es seul, c'est toi le groupe. Et ce n'est pas les autres qui sont des centaines ou les 200 alors qu'ils sont dans le faux. Ceux-là, c'est comme l'écume. L'écume, quand la vague frappe, elle fait de l'écume. Et elle revient, ensuite l'écume commence toute seule à quoi? À y aller, c'est comme des bulles, à éclater. Ensuite, on ne voit plus rien. Il reste que la vague, il reste que la mer qui est, inshallah ta'ala, le haqq. El-Muhim. Tout cela, je voulais dire autre chose aussi. Je voulais dire. Non, je me rappelle pas, dommage, du début de la question. Je me rappelle pas du début de la question. Mais si Inch'Allah Ta'ala, si Inch'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala m'aide et que je viendrai en France, non, Toulouse, Inch'Allah Ta'ala, serait l'une des premières villes que je visiterai, bin Azza wa Jal. À cause de quoi? À cause, yani, des gens qui sont là-bas, malheureusement, qui sont yani, égarés, qui sont à cause yani, de certaines gens, surtout d'une sœur. Il y a une sœur là-bas, une Syrienne d'origine syrienne, qui propage la da'wa de Ben Laden, la da'wa de Abu Qatad al-Filastini, le da'wa de Zawahiri, de la clique des Tkfir. C'est une sœur là-bas, et vous savez que les Syriens, c'est ça leur base, un Syrien, yani, dans la plupart du temps, yani, il est loin du minhaj. Car en Syrie, vous savez que c'est interdit de suivre le minhaj. Non, c'est pour ça qu'ils suivent alors facilement la da'wa des ikhwan muslimin et la da'wa des tkfiriyin. Ça leur est dans le sang. Donc il y a une sœur là-bas qui fait la da'wa aux tkfir. Non, elle invite des sœurs dans les appartements. Elle leur montre des vidéos de Ben Laden, etc. Et elle leur dit, voilà ce qu'il faut suivre. Il ne faut pas suivre les grands savants. Il faut suivre celui-là, il faut suivre Hamid Al-Ali du Koweït, il faut suivre la clique. Al-Muhim, cette sœur-là, Inch'Allah Ta'ala, très bientôt, il y aura un avertissement, une mise en garde des savants contre elle, bi'idhnillah azza wa jal. Ça va venir, Inch'Allah Ta'ala. Il faut juste patienter un peu hein, pour aller sûrement, comme on dit doucement, et sûrement, bi'idhnillah ta'ala. Tafadhal, Inch'Allah, le prochain.
Donc on revient sur le paltalk, Inch'Allah. Tfadl, Cheikh.
Donc, Inch'Allah ta'ala, la nasiha, nous qui se disons contre le takfir, contre la bida, contre le chiisme, contre les soufis, contre les mu'tazila, contre. Donc, c'est nous qui devons être un modèle et qui devons donner l'exemple aux gens. Maintenant, quand les gens nous voient, nous, yani, on se dispute. Nous, on n'est pas une communauté. Les gens vont dire, tu vois donc, tu vois ceux-là qui se disent sur le minhaj du messager d'Allah, tu vois ceux-là qui se disent sur le minhaj des salaf. Non, ils vont rire de nous, ils vont profiter pour propager leur da'wah. Ils vont dire, regardez-nous, masha'Allah, comme on est en groupe. Regardez-nous, comment on se rencontre, masha'Allah, on fait des fêtes. Non, on s'assoit autour de la piscine, masha'Allah. On est masha'Allah, na'am. Alors que les autres, ils passent son temps à faire la médisance, à se disputer, à ceci, à cela. C'est pour ça que Et chaque personne qui donne un mauvais aperçu sur le minhaj, et chaque personne qui est un mauvais modèle, celle-là demain, quand elle va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, elle devra rendre les comptes. Pourquoi? Parce que les gens, même si tu dis rien ou là, déjà la façon, quand ils savent que tu es de tel minhaj, na'am, ils cherchent déjà les fautes, ils cherchent que tu te trompes. Ils cherchent, na'am, la moindre petite bête pour l'agrandir et dire voilà ce que font les salafis, voilà ce qu'ils disent, voilà ce. C'est pour ça que chaque personne qui est dans le minhaj devrait être un bon modèle, devrait être le meilleur modèle, na'am, dans son comportement, surtout avec les gens, surtout avec les autres. Na'am, c'est une responsabilité, une grande responsabilité demain devant Allah Azza wa Jal, parce que tu es le symbole du vrai islam, mon frère et ma soeur. Tu es le symbole du vrai islam. Les gens, quand ils vont te voir, ils vont dire comment, na'am, comment cette personne fait cette chose, comment cette personne ment, comment, pourquoi cette personne est hypocrite alors que elle se dit dans le vrai minhaj, dans le vrai islam. C'est pour ça que c'est une grande responsabilité demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tfadlal.
Donc la question suivante, inshallah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que Cheikh peut nous expliquer, inshallah, comment faire la prière de la distraction? Barakallahu fikum. Tfadlal Cheikh.
Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Connaître comment faire la prière de la distraction est une chose très importante. Très très importante. Parce qu'il n'y a pas une personne qui, ça lui arrive pas d'être distraite dans la salat. C'est pour ça que c'est une chose très importante et que toute personne devrait connaître bi'idhnillah azza wa jalla. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il lui est arrivé d'être distrait dans la salat et de faire des sujouds de distraction. Allah ta'ala le laisse, yani, être distrait dans la salat pour qu'il légifère pour nous. Pour qu'il légifère pour nous, si on se trompe, comment qu'on doit corriger la salat bi'idhnillah azza wa jalla. Donc, je vais dire, et d'abord avant cela, je veux dire, celui qui veut yani, apprendre cette chose, qu'il revienne à un de mes cours, je ne sais pas c'est où, c'est sûrement dans la prière. Là-bas, il va trouver cette chose, inshallah ta'ala, en détail. Il va la trouver en détail. Mais supposons que et il ne va pas la trouver, je suis obligé de répéter maintenant, inshallah ta'ala. Regardez, quand je suis dans la salat, ou bien j'oublie un pilier, ou bien ce n'est pas un pilier. Si c'est un pilier comme par exemple, j'ai oublié un rukou, ou bien j'ai oublié un sujoud, ce sont des piliers, ou bien j'ai oublié de me relever, c'est-à-dire j'étais dans le rukou, je suis directement descendu dans le sujoud. Et comme ça s'appelle les piliers. Si c'est un pilier, qu'est-ce que je vais faire? Comment je dois me comporter? Je vais donner un exemple de, par exemple, le sujoud. Vous savez, chaque raka'a contient deux sujoud. Chaque raka'a contient deux sujoud. Supposons que je fasse un seul sujoud, et que je me lève. Je suis dans salat al-dhuhr. Écoutez bien, je suis dans salat. Disons salat sobh, c'est mieux, ça ne comporte que deux rak'at. Je suis dans salat sobh. J'ai dit Allahu Akbar, j'ai fait du'a, j'ai lu le Fatiha, j'ai lu une sourate. Je me suis incliné. Ensuite, j'ai dit Sami'a Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Je suis descendu, j'ai fait la première prosternation. Il dit Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-A'la, ou bien Subhan Rabbi al-A'la ou bihamdi, trois fois. Et au lieu de m'asseoir, où je vais dire Rabbi khfidli, Rabbi khfidli, Rabbi khfidli, et je reviens vers la deuxième prosternation, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis relevé directement. Je me suis relevé directement. Maintenant, quand j'ai commencé à dire, j'ai dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman Rahim, je me suis rappelé. Je me suis dit, subhanallah, je suis sûr de n'avoir fait qu'une seule prosternation. de n'avoir fait qu'une seule prosternation. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé d'arrêter le Fatiha, d'arrêter où je me suis, et de descendre faire la deuxième prosternation. Je vais descendre faire la deuxième prosternation. Mais quand est-ce qu'il m'est permis de descendre? Pourquoi ici je suis descendu? Les savants ont dit pourquoi il m'est permis ou là, pourquoi je suis obligé de rompre, de quitter le Fatiha à la lecture et de descendre. Pourquoi? Parce que je ne suis pas arrivé, je ne suis pas arrivé au même pilier que j'ai oublié. Le pilier que j'ai oublié, c'est quoi? C'est une prosternation. Et moi, j'étais où? Je ne suis pas arrivé à une autre prosternation. J'étais en train de lire le Fatiha, j'étais dans le Qiyam. J'étais dans le Qiyam. C'est pour ça que j'ai pu et je suis obligé de revenir vers la prosternation que j'ai quittée. C'est-à-dire, les savants disent que pour revenir et corriger la faute, il faudrait que je ne sois pas arrivé au même pilier qui lui ressemble. Si ici c'est le pilier, c'est un sujoud, il ne faut pas que je sois arrivé à un autre sujoud dans une autre raka. Vous comprenez ici, j'étais seulement debout et je ne suis pas arrivé au sujoud de la deuxième raka. C'est pour ça que donc je descends, je corrige la raka qui, la sijda afwan, qui me manquait. Et dans cette salat, qu'est-ce que je fais? Je fais des prosternations. Quand je termine la salat, je fais des prosternations après. Parce que j'ai ajouté dans ma salat. El-Mohim. Mais cette chose, puisqu'elle nous arrive très, très rarement, ce qui nous arrive le plus souvent, c'est quoi? C'est que quand je suis dans la salat, je commence à me dire, est-ce que je suis dans la deuxième raka ou est-ce que je suis dans la troisième? Est-ce que je suis dans la troisième ou est-ce que je suis dans la quatrième? Est-ce que je suis dans la première ou est-ce que je suis dans la deuxième? C'est ça ce qui nous arrive le plus. Dans ce cas, comment faire? Les savants disent, cette chose se divise en deux. Je vais donner un exemple. Je suis dans Salat al-Dhuhr. Et je me dis, est-ce que c'est la troisième ou est-ce que c'est la quatrième? Est-ce que c'est la troisième ou est-ce que c'est la quatrième? Je ne sais pas. Les savants disent, quand une personne dit comme ça, ou bien elle est sûre, par exemple, ou la disant 90% sûre que c'est la deuxième, c'est la troisième ou c'est la quatrième. Quand une personne dit est-ce que c'est la troisième ou est-ce que c'est la quatrième, ou bien elle est à 90% sûre que c'est ou bien la troisième ou bien la quatrième, ou bien elle est seulement à 50% sûre. C'est-à-dire, elle dit, je ne sais pas. C'est peut-être la troisième, peut-être la quatrième, je ne sais pas. Je ne penche ni vers ça, ni vers l'autre. Vous comprenez? C'est toujours comme ça. Il y a toujours deux cas. Donc, à chaque fois que j'ai un doute, il y a toujours deux cas. Ou bien je suis à 50% seulement sûr que c'est telle chose, ou bien je suis à plus de 50%, à 60, 70, 80, 90% sûr que c'est ou bien 3, ou bien 4, ou bien 1, ou bien 2, et comme ça. Maintenant, si par exemple, je continue, je n'ai pas terminé, si je suis dans la salat al-dhuhr, et je me dis, est-ce que c'est la troisième, est-ce que c'est la quatrième? Maintenant, si je suis sûr à plus de 50%, je suis sûr à 60, 70%, 80% que c'est la troisième. Qu'est-ce que je fais? Alors, je me dis dans mon cœur, c'est la troisième. Donc, je continue la quatrième. Et quand je termine ma salat, je fais deux prosternations hors salat. C'est-à-dire à l'extérieur de la salat. Mais maintenant, si c'est seulement 50%, je me dis 50% c'est la troisième, 50% c'est la quatrième, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je fais comme quoi c'était la troisième, je cherche toujours le minimum. Si je dis c'est la deuxième, c'est la première, je prends que c'est la première. Et qu'est-ce que je fais? Et je continue ma salat comme quoi c'est la première ou bien c'est la troisième, et je fais des prosternations, deux prosternations à l'intérieur de la salat. C'est-à-dire, je m'assois, je fais le teshahoud, et avant de dire salam alaikum, je me prosterne deux fois. Et ensuite, je fais quoi? Je dis salam alaikum. Donc, c'est ça la règle, inshallah ta'ala. C'est quoi? C'est d'après C'est d'après la chose, est-ce que c'est à 50% ou là c'est plus? Si c'est à 50%, je prends le minimum. Si c'est la troisième ou la quatrième, je dis c'est la troisième. Si c'est la deuxième ou la troisième, je dis c'est la deuxième et je continue ma salat normalement. Et je fais quoi? Et je fais des soujouds à l'intérieur de la salat, si c'est à 50%. Si c'est à 60, 70, 80%, que c'est par exemple la troisième, je continue à partir de la troisième et je fais du soujoud après, pas dans la salat, après, quand je termine ma salat. C'est-à-dire, je dis salam alaikum, je me prosterne deux fois et je dis encore salam alaikum. C'est comme ça, inshallah ta'ala. Si vous avez compris, alhamdoulilah, si vous n'avez pas compris, naam, je peux vous réexpliquer si vous voulez, inshallah ta'ala. Tfadal.
Naam, cher, il y a une personne qui m'a dit qu'elle n'avait pas compris. Mais comme vous aviez dit que tout ce que vous venez de dire était présent dans un cours, et pour éviter de perdre du temps, je l'ai plutôt orienté vers l'écoute du dars. Donc est-ce que vous pensez qu'il est préférable de réécouter votre dars ou de répondre maintenant? Wallahu a'lam. Tfadha cher.
Inch'Allah ta'ala, des deux c'est mieux. Hein. J'ai peur que la personne ne trouve pas le darsoula. Si une personne a des doutes, est-ce que je suis, par exemple, disons salat sobh, disons salat sobh, est-ce que je suis dans la première raka ou bien dans la deuxième? Est-ce que je suis dans la première ou dans la deuxième? On va voir, est-ce que cette personne, ses doutes, sont à seulement 50% et moins ou bien sont plus? 60, 70%, 60, 80%. C'est toujours comme ça. Quand on a des doutes, des fois on a des doutes, mais je ne sais pas. C'est moitié-moitié. Mais des fois on a des doutes plus. On dit certes, je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième, mais il me paraît que c'est plutôt la deuxième. Wallahu ta'ala alam. Non. Maintenant, donc, si une personne a des doutes seulement à 50%, elle ne sait pas. Elle dit je ne sais pas si c'est la première ou si c'est la deuxième. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit dire alors, c'est la première. Non. Elle descend toujours vers le plus bas. Et elle continue sa deuxième et elle fait des soujouds à l'intérieur. C'est-à-dire, quand elle arrive, elle s'assoit au teshahoud. Non. Quand elle termine son teshahoud, là où man ya'udhuka min adab jahannam, min adab al-qabr, min fitnat al-mahya wal-mamat, min fitnat al-masih ad-dajjal. Ensuite, elle se prosterne. Elle dit Allahu Akbar. Non. Elle s'assoit. Encore une autre prosternation. Elle s'assoit. Elle dit salam alaikum. Tout cela pourquoi? Parce que elle était seulement à 50%. Mais si maintenant elle se dit, est-ce que c'est la première? Est-ce que c'est la deuxième? Est-ce que c'est la première? Est-ce que c'est la deuxième? Elle se dit, je ne sais pas, mais il me semble à 70% que c'est la deuxième. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait comme quoi c'était la deuxième. Naam. Parce que 70% dans son cœur, c'était la deuxième. Et, puis c'est la deuxième, donc elle la termine, et elle fait le teshuhud, et elle dit salamu alaikum. Mais, les deux soujouds de prosternation, elle va les faire après le salam. Elle dit salam, elle fait le teshuhud, elle dit salamu alaikum, salam wa rahmatullah, elle se prosterne et elle s'assoit, elle se prosterne et elle s'assoit, et elle refait encore salamu alaikum. Donc, pour savoir si les deux prosternations, si on les fait à l'intérieur de la salat ou si on les fait à l'extérieur, on doit voir est-ce que notre doute était de 50% ou là il était de plus. S'il était de 50%, on prend alors le minimum et on continue et on fait des soujouds à l'intérieur. Et s'il est de 50% et plus, qu'est-ce qu'on prend? On ne prend pas le minimum, mais on prend d'après notre doute où est-ce qu'il était. Si notre doute c'est à 60% que c'est la deuxième raka, donc on termine à partir de la deuxième raka. On termine et on fait. Mais on fait le soujoud, on le fait après la salat. Naam. J'espère que c'est clair, Inch'Allah ta'ala. Si c'est pas clair, naam, ou bien je réexplique, ou bien vous allez au cours la prière. La prière, comme l'a fait le messager d'Allah, je l'ai expliqué avec beaucoup de détails. J'ai bien parlé de cette chose, Inch'Allah ta'ala. Je l'ai expliqué comme ça, 3, 4 et 5 fois. Inch'Allah ta'ala. Tfadal.
Naam, cher. Est-ce que cela est valable pour les prières surérogatoires et notamment donc dans le sens du rappel? Est-ce que si on va au jama pour faire talawih et que l'imam a déjà donc fait une raka'a, donc nous on fait la deuxième, est-ce qu'on doit rattraper une raka'a si on en a raté une ou alors on fait direct le taslim? Tfadal, cher.
Alaykoum salam, rahmatullah. Si on rentre dans la mosquée, on trouve l'imam en train de lire. Nous, on ne sait pas, par exemple, s'il est dans la première ou dans la deuxième. Ça? Maintenant, je rentre avec lui, supposons qu'il soit dans la deuxième. Moi, je croyais qu'il était dans la première. On s'assoit, il dit salam alaykoum. Moi, je ne peux pas dire salam alaykoum, sinon j'ai fait un witr. Qu'est-ce que je fais? Lui, il dit salam alaykoum, mais moi, je me lève. Et vite, je fais une autre raka'a. Je la fais très vite avec Alhamdoulilah, Qulhuwallahu très vite. Et je m'assois, je fais test salam alaykoum. Et je rentre avec lui dans la nouvelle salat, Inch'Allah. À voix basse, à voix basse. On ne la fait pas à voix haute. Car le fait de lever la voix ou de l'abaisser, que ce soit dans salat al-fard ou bien que ce soit dans salat al-nafila, c'est seulement une sunna. C'est seulement une sunna. Pourquoi je dis comme ça? Parce que certains gens croient que si dans salat al-maghrib, s'il n'a pas yani, élevé la voix, il croit qu'il va faire 10 sujouds. Alors qu'on ne fait pas 10 sujouds si on n'a pas levé la voix ou si au lieu de l'abaisser, on l'a levé. Non, on ne fait pas sujoud à cause de voix haute et voix basse. C'est seulement une sunna. Tu es libre. Tu veux lire à haute voix, tu veux lire à voix basse. Donc, dans ce cas, on va lire à voix basse pour ne pas déranger les gens dans Salat Tarawih. Fadlal Hayakallah.
Donc la question suivante de Najwa. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah Ta'ala vous récompense pour votre travail et pour le temps que vous nous consacrez, ainsi qu'aux admins de la room. Amin, barakallahu fikoum. Ma question est la suivante. Un frère demande, il habite à 20 minutes à pied de sa mosquée et en vélo de 8 à 10 minutes. Les 5 allers-retours par jour le fatigue. Est-ce que pour lui cela est obligatoire de s'y rendre ou surérogatoire? Barakallahu fikoum. Tfadha cher.
Alaykoum salam wa rahmatoullahi attendez que je me rappelle la question parce que je parlais avec mon fils ici. C'était quoi la question? Zlabiya Kalblouz. Non, c'est pas Zlabiya, c'est pas Kalblouz. C'est pas Taïf, c'est pas Tchouka, c'est pas Chourba. Ah, c'est la prière. Non. La prière à pied, ça. Je disais, j'ai toujours dit. Aller à la mosquée devient obligatoire si l'imam, ou plutôt le muezzin, le muadhin, si le muadhin faisait l'appel sans micro, je pouvais l'entendre s'il n'y avait pas d'immeuble et pas de bruit dans la rue. C'est comme ça, disent les savants. D'après le hadith du messager d'Allah, Man sami'a nida falam yujib fala salata lahu illa min udhr. Rawi Abu Daoud, hadith authentique. Quiconque, le messager d'Allah a dit, quiconque entend le adhan et ne lui répond pas, c'est-à-dire ne va pas à la mosquée, il a dit, il n'a pas de prière. Il a dit, sauf s'il a des excuses. Donc, moi, maintenant, pour que j'entende, ça ne veut pas dire que, par exemple, en France, il n'y a pas le adhan, donc je suis excusé. Non, mais on va supposer, imaginer que s'il y avait un adhan, de la distance où j'habite moi à la mosquée, et qu'il allait faire le adhan, par exemple sur le toit de la mosquée, par exemple, sans micro, sans microphone, et qu'il n'y avait pas ce bruit, le bruit des voitures, le bruit des autobus, le bruit des usines, j'étais par exemple dans la campagne. Est-ce que je l'entendrai ou pas? C'est d'après cela que je peux savoir est-ce que c'est obligé d'aller à la prière ou bien ce n'est pas obligé. Non. C'est pour ça qu'il n'y a pas une distance. Il n'y a pas une distance pour dire que tu peux aller à 2 km, sinon tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est d'après le muezzin, et d'après yani, le bruit qu'il y a et qu'il n'y a pas, d'après la voix qu'il a, d'après, et comme ça. Non. Donc moi je dis à mon frère, Allah Azzawajal A'lam, je lui dis, ya khoya, tant que, Inch'Allah Ta'ala, tu peux aller et que tu te sens en forme, sache que ce ne sont que des récompenses que tu prends, ce ne sont que des ajr, naam, c'est toujours pour ton bien, et yani, c'est yani Allah Azzawajal ne yani Allah Azzawajal yani marquera toujours naam, ce que tu es en train de faire, et que demain c'est toi le grand gagnant quand tu vas rencontrer Allah Azzawajal. Maintenant, quand des fois tu es vraiment fatigué, quand des fois vraiment tu as mal à la tête, quand des fois ceci nous arrive à nous tous, ceci nous arrive à nous tous, à condition que ça soit l'exception et non pas la règle. Tfadhal.
Non, donc on passe sur le InSpeak, Inch'Allah. Et c'est au tour de Mahajar 72. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah, cher, pour vos interventions. Question. Elle explique qu'il lui arrive quelquefois, au moment de s'endormir, de ressentir une présence qui lui bloque le corps. Elle ne peut ni bouger, ni parler, pourtant elle est consciente. J'aimerais savoir si vous savez ce que c'est. Est-ce que c'est un djinn? Y a-t-il des moyens de s'en protéger? Jazakumullah khairan. Par contre, chérie, il y a un frère qui m'a fait rappeler qu'en français, il existe un livre sur les prosternations de la distraction. Un petit livre de Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, édition Anas, si je ne me trompe pas. C'est un petit livre qui coûte pas très cher. Donc, Inch'Allah, ceux qui ont des doutes, ils se le procurent. Bismillah. Tfadashir.
Avant de répondre, Inch'Allah Ta'ala, je demande au frère du Koweït s'il est là avec nous. L'akh Abu Abdurrahman, l'akh Abu Abdurrahman, هل أنت موجود معنا بارك الله فيك؟ هل أنت موجود معنا بارك الله فيك؟ نعم، le temps qu'il réponde إن شاء الله تعالى، il faut acheter ce livre إن شاء الله تعالى، il est très important. Car يعني je veux vous expliquer, mais ce n'est pas comme إن شاء الله تعالى vous lisez le livre. Vous comprendrez إن شاء الله تعالى sûrement mieux. Sûrement mieux. نعم. طيب، je répète إن شاء الله تعالى. أبو عبد الرحمن هل أنت معنا إن شاء الله هل أنت معنا جاتو إن شاء الله تعالى pour voir s'il est avec nous ou s'il n'est pas avec nous. طيب je ne sais pas s'il est avec nous ou s'il n'est pas. المهم je voudrais répondre à cette question en disant vous savez que nous tous Il nous arrive que des fois, en dormant, on sent comme un poids sur notre corps et qu'on voudrait parler ou là qu'on voudrait crier qu'on ne peut pas et on devient bloqué au point où yani, on peut ni bouger ni crier. Et cette chose qui nous arrive, cela dépend yani, comment qu'elle s'appelle d'un pays à un autre. En Algérie, on dit le djhama. Et d'autres disent Hmar Leil. Hmar Leil, c'est-à-dire l'âne de la nuit. Comme quoi, Zahma, c'est un âne qui vient. Allah Ta'ala alam. Je ne sais pas chez vous comment vous l'appelez. Naam, je ne sais pas chez vous comment vous l'appelez. Ce que je veux dire, c'est que il y a une divergence. Est-ce que c'est un djinn qui vient ou bien cette chose est-elle due au manger? C'est-à-dire à une mauvaise digestion. Donc, les avis divers sur cette chose. Certains disent que ça vient de la mauvaise digestion. On a mangé une chose qu'on n'a pas bien digérée. Ensuite, la nuit, ça nous bloque comme ça. On sent un poids sur notre, sur notre poitrine, sur notre corps. Et d'autres disent non. Ils disent celui-là, c'est un djinn. Qui vient, naam, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Ce que je peux vous dire, c'est que même moi, ça m'arrive. Et que, alhamdoulilah, ça fait des années qu'il ne m'est pas venu. Naam. Et je demande à Allah ta'ala qu'il ne me vienne pas aujourd'hui. Car je n'ai pas envie de cette personne, si c'est un djinn, qu'elle nous laisse tranquille pendant ce ramadan. Naam. Donc, ce que je voudrais vous dire, que si on sent cette chose, c'est que toujours, on doit commencer par penser au dhikr, c'est-à-dire toujours on doit dire Allahu Akbar, ou bien Bismillah, ou bien lire le Coran. Moi, quand ça m'arrive, Inch'Allah Ta'ala, j'essaie toujours de lire Ayat al-Kursi. Quand ça m'arrive, j'essaie toujours d'avoir en tête Ayat al-Kursi. Naam. Celui-là, justement, il faudrait savoir quelle ceinture il a. Naam. Celui-là, on ne sait pas quelle ceinture il a. Alhamdoulilah, ça fait, moi personnellement, ça fait longtemps qu'il ne m'est pas venu. Non. Et je vais faire des doigts pour qu'il aille cette nuit se poser sur Abu Marwan. Abu Marwan n'est pas avec nous. Et je vais faire une doigt contre lui pour qu'il lui rende visite aujourd'hui. Il lui rende visite aujourd'hui et il le réveille la nuit. Parce que, non, parce qu'il n'est pas venu assister au cours aujourd'hui. Taïeb, Inch'Allah, le prochain.
Non, je pense c'est peut-être un ceinture vert.
Est-ce que vous m'entendez? Je vais vous dire une chose, peut-être elle va vous faire rire, je ne sais pas. Je l'ai dit déjà une fois. Et justement, aujourd'hui, je pensais à une chose, ou là, hier, je me suis dit que puisque de temps en temps, je dis des choses qui, comme ça, des anecdotes, des histoires, etc., je me suis dit peut-être qu'une fois, quelqu'un va rentrer dans mon site et que il va écouter, il va faire sortir toutes les choses qui font rire ou là, toutes les anecdotes. Et il va les mettre de côté. Comme ça, on va les imprimer. On va dire, voilà. Taïb. Alhamdoulillah. Mousseline, vous êtes avec moi dans le partout? Puisqu'on parlait de cette chose qui se posait sur nous quand on dort. Je voulais vous dire que moi, jamais je ne connaissais cette chose. Une fois, quand j'avais à peu près, j'étais jeune, je ne me rappelle pas, peut-être j'avais disons, dans les 15 à 20 ans, ou peut-être un peu moins, peut-être 12 ans, peut-être, je ne me rappelle pas très bien. Non. Une de mes tantes est venue passer la nuit chez nous. Elle était jeune aussi, elle avait peut-être 16 ans ou 15 ans à l'époque. Non. Et, non, moi, elle, mon frère, ma soeur, on a discuté, on a ri la nuit comme ça, on a fait des blagues, je ne sais pas quoi. Elle Mouhim, avant de nous séparer, elle m'a dit, tu sais que il y a quelqu'un qui vient la nuit et qui se pose sur les ventres des gens. Subhanallah, elle a commencé à me faire peur. Elle m'a dit le moyen, si jamais cette personne nous lève vient. Le moyen de l'attraper, elle m'a dit. Elle m'a dit, cette personne qui vient, elle a une chéchia sur la tête. Vous voyez le truc rouge sur la tête, comme les Égyptiens. Les Égyptiens, ils ont quelque chose sur la tête rouge avec une petite queue en noir. Vous voyez la chéchia rouge qui monte comme ça. Hein? Elle m'a dit, il a un truc pareil. Elle m'a dit, et si jamais il se pose sur une personne, il faut lui enlever la chéchia. Il faut mettre comme ça sa main et lui enlever la chéchia. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec cette chéchia? Elle m'a dit, il faut rester éveillé jusqu'à ce que le fajr, jusqu'à ce que l'aube, yani, le fajr, ou le soleil, j'ai oublié, yani, jusqu'à la matinée. Elle m'a dit, alors, on va voir dans la chéchia, on va la trouver plein d'or. Plein d'or. J'ai dit, subhanallah, j'ai dit, subhanallah. Donc, c'est mashallah. Et ensuite, on s'est quitté. Elle est, je sais pas, elle est allée dans la chambre dormir. Et moi, je me suis endormi, je me rappelle, je me suis endormi dans un divan, hein, quelque chose qui porte deux places. J'étais donc moi et mon frère. J'étais moi et mon frère. Et vers 2 h du matin, ou 3 h, je ne sais pas quoi, mon frère dormait à ma droite ou là à ma gauche, j'ai oublié. Mais Mouhim, il dormait à mes côtés. Et il est moins âgé de moi de 4 ou 5 ans. Non. Et, vers 2 h du matin ou là, je sens quelque chose sur moi. Allahu Akbar. Non. Et je sens le poids. Le poids dont elle m'a parlé qui est venu se poser sur moi. Subhanallah, j'ai essayé de crier, j'ai pas pu, j'ai essayé de bouger, j'ai pas pu. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Alors je me suis rappelé, yani, la chéchia qu'il avait sur la tête. J'ai dit, celui-là, je vais lui enlever la chéchia. Et bien sûr, j'ai fait un geste comme ça de ma main et j'ai giflé mon frère. qui était à ma droite ou à ma gauche. Je l'ai giflé avec ma main et lui, il a crié. Et quand il a crié, ça m'a aidé. J'ai crié et ma mère est venue, mon père est venu. Ils sont tous venus voir qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà, naam, je n'ai pas pris d'or malheureusement. Mais j'ai donné une gifle à mon frère. Hein? Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me pardonne. Tout ça à cause de qui? Tout ça à cause de ma tante qui m'a raconté cette chose. Donc, inshallah ta'ala, inshallah ta'ala, que ce djinn ne va pas, ce djinn, si c'est un djinn, qui va pas venir nous rendre visite cette nuit. Hein? Et dans le prochain cours, toutes les personnes à qui ce djinn vient de rendre visite, qu'elles nous tiennent part, mais qu'elles ne nous cachent pas l'or. Hein? Si elles prennent la chéchia et elles se remplissent d'or, qu'elles ne nous oublient pas quand même. Hein? Qu'elles disent, il y a un cheikh en Algérie, hein? C'est lui qui nous a montré comment s'enrichir facilement. Donc on doit lui donner une part, Inch'Allah. C'est pas vous prenez la chéchia et vous dites, non, il faut pas oublier, c'est moi, Inch'Allah Ta'ala, qui vous ai montré comment devenir riche en une nuit. Seulement éloignez les gens, ne dormez avec personne à votre droite ni à votre gauche. Il faut dormir seul, Inch'Allah Ta'ala. Je vous donne le micro. Tfadla, une autre question, Charles.
Non, Michel, donc je passe à la question suivante, Inch'Allah. Mais Adèle est pas mal l'histoire. Inch'Allah, je vais m'en rappeler. Alors, c'est la question du frère Seyfeddin. Alors, c'est sur. Ah, ouais. C'est sur Taraweeh, Cheikh. Salam alaikum, Cheikh Anna. Sahaftorkom, Cheikh. Pour Salat Taraweeh, on peut faire plus de 11 raka'a. Et ne pas faire la prière ibrahimique. Ah, enfin, est-ce que l'on peut faire plus de 11 raka'a et ne pas faire la prière ibrahimique après le tashahhud? Et le muezzin peut dire au bout de la 8e raka'a, salat chef wa al-witr. Et l'imam peut faire un dars avant Tarawih, le temps d'attendre les gens. Jazakumullahu khayran. Donc tout ça, ce sont des petites questions, chers.
Une seconde, Inch'Allah Ta'ala, parce que il y a un frère avec nous, Abdallah 15, qui est avec nous, Inch'Allah Ta'ala. Il va nous passer le salam de l'Angleterre, Inch'Allah Ta'ala, et nous dire comment ça se passe là-bas le Ramadan, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal.
Salam alaykoum. Cheikh Abdallah 15, c'est Soufiane 52. Est-ce que c'est Soufiane 52? Non, mais je ne sais pas s'il est là, Cheikh, puisqu'il ne prend pas le micro. Akhi Soufiane, est-ce que tu es là, Inch'Allah? Soufiane 52. Allahu alam, Cheikh, je ne pense pas qu'il soit là. Tfadat, Cheikh.
Des questions sur la salat. Naam. Je pense, Wallah Azza wa Jal alam, comme dit Cheikh Al-Albani, que yani, de préférence, on doit comment qu'on dit ça? Yani, le messager d'Allah n'a jamais fait dans sa vie, ni pendant le Ramadan, ni pendant les autres mois, plus de 11 ou 13. Naam. Je pense qu'il vaudrait mieux ne pas faire, comme dit l'Albani, plus de 11 ou 13. Car on ne peut pas être mieux que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la prière de la nuit. Dans la prière de la nuit. C'est pour ça que, moi, mon avis, c'est celui du Cheikh Al-Albani, que je ne dépasse pas 11 ou bien 13 en une nuit, puis idnillah azza wa jal. Maintenant, autre chose, qu'est-ce qu'il a dit aussi? Non. Qu'est-ce qu'il a dit aussi? Il a dit de. Est-ce qu'on peut. Est-ce que tu peux me rappeler ce qu'il a dit aussi?
Donc, cher, je répète, Inch'Allah. Il a dit au bout de la 8e raka'a, est-ce qu'il peut dire, Salat Chef, Salat al-Witr? Et il a demandé, est-ce qu'il peut également faire un dars avant Salat Taraweeh afin de faire attendre les gens? Tfadal, cher.
Alaykoum salam wa rahmatoullah. En ce qui concerne chefa ou l'huître, ce qu'il faut savoir, c'est que chefa, c'est une sunna ratiba. C'est-à-dire que le hadith qui dit que quiconque fait 12 rak'at, yani qu'il efface yani souvent يعني من حافظ عليهن 12 ركعات كالله تعالى لوي كونستخويغا ميزون دون باغادي سي دو ركعات كون ابل شفع اي كي فيان جوست ابخي العشاء سو سون لا سو سون سو سون يعني سي دو ركعات لا نعم سي بور سا كو maintenant même si on va à la mosquée pour faire salat tarawih quand on fait salat l'isha avec l'imam si on a l'habitude de faire les 12 rak'at pendant la journée donc il nous reste 2 rak'at on les a pas faites après salat l'isha qu'est-ce qu'on fait quand l'imam dit salam alaykoum il termine salat l'isha moi je me lève je fais tisbih je me lève je fais 2 rak'at qu'on appelle que les gens appellent shifa et qui rentrent dans les 12 car il me manque 12 j'ai fait 2 avant salat subh fajr. J'ai fait 4 avant le dhor, ça fait 6. J'ai fait 2 avant après le dhor, j'ai fait 8. J'ai fait 2 après le maghrib, j'ai fait 10, il me manque 2. Les 2, je les fais après salat l'isha. Ensuite, je commence avec lui les tarawih. Tous les tarawih qu'on va faire, ça s'appelle le witr. Car le witr, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire impair. Si je fais 3 avec l'imam, ça veut dire j'ai fait le witr de 3. Si on va faire 5, j'ai fait un witr de 5. Si on va faire 7, c'est 7 et comme ça. La plupart en Algérie, par exemple, font un witr de Hdesh, 11 rakats. Naam, donc tout ça, c'est un witr bi'idn azzawajal. Quant au dars, inshallah ta'ala, si on le fait de temps en temps, naam, il est permis bi'idn ta'ala, car ça ne rentre pas dans la bida. Mais je le fais comme ça, seulement de temps en temps, pour y aller apprendre aux gens des choses. La prière ibrahimia, l'imam ne la fait pas. Chef, naam, la salat ibrahimia, yani, c'est mieux de la faire bi'idhnillah azza wa jal. C'est mieux de la faire bi'idhnillah ta'ala.
Naam, donc la question suivante de Oumar Ousmane. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si la femme qui a ses menstrues se trouve purifiée en plein milieu de la journée de Ramadan, pendant le Ramadan. Doit-elle jeûner le reste de la journée ou peut-elle continuer à manger et boire? Chef à Allah et qu'Allah vous récompense. Amin. Tfadal Cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Fais saut. Alhamdulillah. Regardez, quand une femme, au milieu de la journée, pas spécialement au milieu de la journée, disons après salat al-fajr. Yani, disons à 6h du matin, à 7h, 8h, 9h, le mohim, on est dans la journée. Elle vient de se purifier. Elle vient de se purifier. Certains savants ont dit, puisqu'elle s'est purifiée, à partir du moment où elle s'est purifiée, elle va faire la douche, bien sûr, et commencer la prière et commencer à jeûner. Ça, c'est un des deux avis qu'il y a dans cette situation. D'autres ont dit que si elle ne se purifie pas avant l'aube, elle ne peut pas jeûner. D'autres disent si elle se purifie au milieu de la nuit, du jour, par exemple à 7h, à 8h, à 9h, à 10h, à midi, à 1h, ils ont dit dans ce cas, elle ne peut pas jeûner ce jour. Elle continue à manger et le lendemain, elle commence à jeûner. Ce deuxième avis, c'est l'avis de l'imam Malik, alayhi rahmatullah, et parmi les contemporains, c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah. Et c'est l'avis dont je suis convaincu. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Moi, j'ai pris de l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah, qui dit que si une femme se lève de la journée, elle ne peut pas jeûner. Car pour jeûner, il faut qu'elle se purifie avant l'aube. Donc elle mange ce jour-là, hein, et qu'est-ce qu'elle fait? Et elle le rattrape bi'idhnillah azza wa jal. Wallah azza wa jal a'lam. Tfadlal, le suivant.
Donc la question suivante. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Une chose que je ne comprends pas par rapport au... Donc c'est la question suivante. Hein. La personne dit une chose que je ne comprends pas par rapport aux juifs. Les juifs, donc Moussa alayhi salam leur a indiqué qu'un messager viendrait, un dernier messager. Et ce messager donc serait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les juifs disent que ce messager n'est pas encore arrivé. Alors que nous savons pertinemment que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers. Est-ce que donc il faudrait comprendre par rapport à ce que Moussa alayhi salam a dit? Est-ce qu'il faudrait comprendre les juifs comme s'ils attendraient encore un nouveau messager? Est-ce que cela est possible? Tfadal cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Vous savez que l'un des piliers de l'islam pour rentrer en islam et pour ne pas en ressortir est de dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers. Quand je dis messager, ça veut dire aussi prophète. Naam. Pourquoi? Parce que si quelqu'un va dire que il y a encore un messager qui va venir, ou bien un prophète, et vous savez la différence entre le messager et le prophète. Naam. Le prophète, c'est celui qui est envoyé par Allah Azzawajal, mais qui n'a pas de message. Non, il n'a pas de message, mais il suit la charia du messager qui l'a suivi, qui l'a précédé. Tandis que le messager vient toujours avec une nouvelle, un nouveau message et une nouvelle charia. C'est pour ça que il y a 315, il y a quoi? Il y a 315 messagers et 124 000 prophètes. D'après le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique. Et il est authentifié par Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah. Naam. Et pas le contraire. Naam. Et pas le contraire. Maintenant, il faudrait savoir que, il y a des sectes. Il faudrait savoir que il y a des sectes. Naam. Comme par exemple, Al-Qadianiyya, qui est une secte, naam, qui dit que le messager, yani, les prophètes, il y en aura toujours. Naam. Les prophètes ou bien les messagers, ça ne change rien. Qui, ça veut dire, il y en aura toujours. C'est pour ça que ils ont dit que, d'après eux, ça fait pas longtemps, il y avait quelqu'un qui était messager, qui s'appelle Ghulam Ahmed Mirza. Mirza Ghulam Ahmed. Non, c'est pour ça que cette secte s'appelle aujourd'hui, par exemple, l'Ahmadiyoun. Ils disent que, non, il y en a un autre messager est venu. Et bien sûr, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit quoi? A dit que il y aura après moi 30 menteurs. 30 menteurs. 30 menteurs vont venir après moi. Déjà, en son temps, sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un a dit que j'étais un prophète qui s'appelle Mousseilima. Mousseilima. C'est une image que Abou Bakr Siddiq a tué en lui envoyant Khalid ibn Walid radiallahu ta'ala anhu. Et lui-même, Mousseilima, lui-même était marié à qui? À une femme qui disait qu'elle était prophète elle aussi. J'ai oublié maintenant comment qu'elle s'appelle, attendez une seconde. Elle a un nom un peu spécial. Il est sur mes lèvres. Attendez. Bon. Je ne l'ai pas, je ne vais pas perdre mon temps. Mais Allah Azzawajal a voulu que cette femme rentre en islam. Elle s'appelle, attendez, c'est pas Jounes. Attendez. Cette femme, alhamdoulillah, est rentrée en islam et a quitté l'apostasie. Et elle est rentrée en islam et elle est morte musulmane, alhamdoulilah. Si quelqu'un connaît son nom, qu'il me la rappelle. Donc, et depuis ce jour-là, de temps en temps, quelqu'un va venir et va dire que je suis prophète. Et jusqu'à présent, si vous allez par exemple aux États-Unis, vous allez trouver des gens qui vont vous dire que on est des prophètes ou là on est des messagers. Et celui-là, Ghulam Ahmed Mirza, qui a prétendu la prophétie, Alhamdoulilah, comme je vous l'ai dit une fois, Allah Ta'ala a voulu montrer que c'est un menteur en faisant quoi? En le faisant mourir dans les toilettes. En le faisant mourir dans les toilettes. Allah Ta'ala a attendu que cette personne rentre dans les toilettes et lui a envoyé Malik al-Mout pour lui envoyer son âme, pour lui enlever son âme. Et quand il est mort dans les toilettes, il s'est passé quoi? Il s'est passé que ça a fait une grande fitna. Car les gens ont dit que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que nous les messagers, on doit être enterrés dans l'endroit où on meurt. Or celui-là, il est mort dans les toilettes. Or, ou bien c'est un messager on doit l'enterrer dans les toilettes, ce qui serait impossible, ou bien alors c'est carrément ce n'est pas un messager. Et c'est devenu une grande fitna entre ses adeptes et ils se sont bagarrés ou même entretués à cause de comment qu'on va faire pour l'enterrer. Si on dit c'est un messager, le messager doit être enterré où il est mort. Il est mort dans les toilettes. Donc on va l'enterrer dans les toilettes. Or c'est impossible. Un messager enterré dans les toilettes. Et quiconque, bien sûr, dit ou croit qu'il va y avoir un autre messager qui va venir ou un autre prophète, en disant cela, il sort automatiquement de l'islam. Il sort automatiquement de l'islam, il apostasie. Et s'il meurt, il va rentrer en enfer pour ne plus jamais ressortir. Pour ne plus jamais ressortir. Et ça ne lui sert à rien de jeûner, de faire la prière, d'aller au hajj, de donner l'aumône, de mettre le djilbab si c'est une femme, de construire des mosquées. Tout cela ne va lui servir à rien tant qu'il ne reconnaît pas, il n'atteste pas que la messagerie a été close, que après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, personne ne viendra, sauf Isa alayhi sallam qui n'est pas mort, qui va descendre la fin du monde pour mourir sur terre. Sauf Isa alayhi sallam qui n'est pas mort, que Allah Ta'ala a élevé vers les cieux vivant, et qu'il va redescendre pour mourir sur terre et avant de mourir, il va casser la croix et tuer le porc. Et tuer le porc, bi'idhnillah azzawajal. Alors faites gaffe, bi'idhnillah azzawajal, aux personnes qui sont, disons, qui ont été traînées vers ce mauvais dogme et cette mauvaise aqida. On leur dit que, il va y avoir encore des messagers qui vont venir, ou là, il n'y aura plus de messagers, mais il y aura des prophètes, ou là, le contraire, il n'y a plus de prophètes, mais il y aura de messagers. Tout ça, c'est la fausse aqida, c'est la aqida du shaitan. C'est lorsque le shaitan veut, faire entrer quelqu'un à Jahannam, en enfer, éternellement, et il s'y plaît à ce qu'ils aient un adepte pareil. Peut-être vous êtes au courant, et que je ne vais pas vous étonner si je vais vous dire que, est-ce que vous savez qu'il y a même des adeptes du shaitan? Le shaitan lui-même, subhanallah, il y a des gens qui l'adorent, qui l'adorent. Non, c'est pas comme on dit, nous, on suit le shaitan. Non, non, il y a une secte, des gothiques, voilà, une secte. Tu rentres dans cette secte et tu deviens un adepte et tu commences à monter de grade. Et, subhanallah, à ce point, ils disent quoi? Ils disent que le shaitan, ils disent que le shaitan, voilà, ils disent que le shaitan, ils disent quoi de lui? Ils disent que, on lui a fait du tort. Ils disent le shaitan, on lui a fait du tort, on lui a tout mis sur le dos. Donc, nous, on est là pour quoi? On est là pour défendre le shaitan, pour le défendre et lui donner ses droits. Pour lui donner ses droits. Donc vous voyez comment le shaitan, comment qu'il peut égarer les gens et comment qu'il joue avec les gens et comment qu'il fait de certains ses adeptes au point où ils l'adorent et ils sont prêts à tuer des gens et à immoler, à brûler des gens, brûler leurs enfants, leurs parents à cause de ce shaitan qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Naam. Il est, Inch'Allah Ta'ala, 2 heures moins quart chez moi, 3 heures moins quart chez vous. C'est beaucoup, Billah Azza wa Jal. Je m'arrête en demandant à Allah Subhanahu wa Ta'ala de raffermir nos cœurs dans la vraie aqida, de raffermir nos cœurs dans le vrai minhaj, de raffermir nos cœurs dans le vrai islam, de raffermir nos cœurs dans le sentier du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'on rencontre Allah ravi de nous, qu'il soit ravi de nous et qu'il nous fasse rentrer au paradis. Tfadl Ibrahim, c'est quoi l'annonce que tu voudrais mettre? Tfadl.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل عندكم الصوت؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، إن شاء الله تعالى بارك الله فيك شيخنا، حفظك الله ورعاك. Je voudrais faire une annonce, إن شاء الله تعالى، deux annonces concernant deux personnes. Hein? Ces deux personnes, les premières personnes, c'est un frère, c'est deux personnes que je me porte garant moi-même, Inch'Allah Ta'ala. Et je demande, le soutien de mes frères et sœurs ici, et je voulais en profiter aussi de faire cette annonce ici. Il y a un frère que je me porte grand, un frère qui vit à Médine, Sadiq, c'est un ami intime, et il vit là-bas avec sa femme et ses trois enfants. Allah Azza wa Jalla l'a éprouvé avec une maladie incurable. Une maladie incurable, il n'y a pas de remède pour l'instant qu'ils sont en train de chercher. Donc ce frère-là, alhamdoulilah, il vit à Médine. Ce n'est pas un étudiant, voilà qu'il vit là-bas, c'est un frère de France. Et la nuit là-bas, à l'hôpital lui coûte 500 riyals. Ce qui fait le frère, il vit, on va dire, avec le sadaqa des frères et sœurs. Donc on a déjà commencé une première récolte, alhamdoulilah, ça a porté ses fruits. Et je vous demande, inshallah ta'ala, en ce mois béni de Ramadan, wallahi, khouani, sachez qu'il y a ne serait-ce qu'un euro. Wallahi, on ne sait pas par quel. On sait pas par quel bien ou par quelle œuvre on va rentrer au paradis. Hein? Et sachez une chose, il n'y a pas une sadaqa qu'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui va nous appauvrir de notre richesse. Il n'y a pas une seule sadaqa qu'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous appauvrir de notre richesse, subhanallah. Donc inshallah ta'ala, je vous demande votre aide. Hein? Donc on est quelques frères à faire cette récolte. Quelques frères à faire cette récolte. Je vais vous donner le frère à qui moi je faisais cette récolte, et je passe les coordonnées de ce frère là comme ça vous le passez, inshallah ta'ala. C'est le frère Abu Sulaiman. Donc inshallah je vais vous le mettre là sur la room, et je vous demande aussi de récolter. Et il y a une soeur aussi qui est en Égypte, hein, elle a un cancer du sein, la soeur. Donc je vous demande, inshallah ta'ala, elle vit à Alexandrie, elle a un enfant de 3 ans, elle est mariée, et voilà qu'elle laisse en pareil, c'est très très cher. Et je vais vous demander, inshallah, pour cette soeur-là, de me contacter, moi, ou de contacter Yanni, ou de contacter ce numéro-là que je vais vous mettre. Donc là, pour la soeur qui est en Égypte, contactez ce numéro. Inch'Allah, le frère Abu Abdillah. Et pour le frère qui est à Médine, il y en a de contacter à ce numéro. Voilà, barakallahu fikoum. Même si c'est le même pour les soeurs qui vont appeler, et qui vont appeler, ils demandent la femme du frère, inshallah ta'ala. Il demande la femme du frère. Et pour le numéro, l'autre numéro pour la sœur, qui est 06-671-3767, qu'ils appellent, c'est pour aider la sœur qui est en Égypte, qui a un cancer du sein. Barakallahu fikoum. Et sachez qu'il ne serait-ce qu'un euro, vous ne savez pas par quelle action vous allez entrer au paradis, inshallah ta'ala. Et la communauté du prophète, alayhi salatu salam, n'est pas avare. C'est une communauté généreuse, inshallah ta'ala. Donc, wallahi, ne serait-ce que 10 euros par personne, ou 5 euros, alhamdulillah. Même 1 euro. Il n'y a pas de honte, tu vois. Alhamdulillah. Et nous sachez que le frère de la Médine peut, faire des doigts. Ils sont des gens malades. Et les doigts des gens malades, ils sont exaucés, inshallah ta'ala. Wallah barakallahu fikum. Subhanakallahu alhamdulillah. Shadu wa lahi l'ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik, Cheikh. Et afin de vous avoir retardé. Hayyakum Allah. Salam alaikum.
On me dit qu'il y a un lapsus et que j'ai dit que les prophètes doivent mourir dans les toilettes. Je ne sais pas si j'ai dit ça, ça veut dire que je voulais dire le contraire. Où les prophètes doivent mourir, ou les prophètes doivent être enterrés là où ils sont morts. Les prophètes doivent être enterrés là où ils meurent. Si j'ai dit ils doivent mourir dans les toilettes, si j'ai dit ils doivent mourir dans les toilettes, donc je parlais des faux prophètes. Je parlais des faux prophètes, ceux-là doivent mourir dans les toilettes. Sinon, je voulais dire que les prophètes doivent quoi? Doivent être enterrés dans l'endroit où ils meurent, bi'idhnillah azza wa jal. Donc, inshallah ta'ala, pour celui qui peut aider, surtout en ce mois béni, falyatafaddal barakallahu fih. Et je pense que le frère Ibrahim ne savait pas ou ne sait pas que ça fait longtemps que on avait fait disons qu'aujourd'hui c'est une exception, inshallah ta'ala. Disons qu'aujourd'hui c'est une exception, inshallah ta'ala. parce que surtout que le frère Ibrahim peut-être n'était pas avec nous quand on disait que on faisait pas d'annonce sur l'argent dans le salon, que pour enlever les doutes, enlever les doutes et pour que les gens ne disent pas qu'ils sont en train de ramasser de l'argent, etc. On ne sait pas où ils les donnent, et ceci, cela, Al-Muhim, pour ne pas ouvrir la porte, pour ne pas ouvrir la porte, à ceux qui veulent nous faire du mal. Mais puisque Inch'Allah Ta'ala, c'est venu comme ça, Allah Ta'ala a voulu que ça se fasse. Donc, Inch'Allah Ta'ala, je demande à toute personne qui peut aider, Inch'Allah Ta'ala, de le faire en ce mois béni, où la récompense, se multiplie, où la récompense se multiplie. Bi'idhnillahi Azza wa Jal, que Allah Azza wa Jal nous aide et nous facilite à faire du bien. Amin, amin. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. À lundi, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.